Retraite, abrogation de la réforme Macron-Borne. Non à la retraite par point. Avec sa confédération, le Congrès revendique l'abrogation de la réforme Macron-Borne des retraites qui s'attaque à l'âge de départ à la retraite pour le passer de 62 à 64 ans et accélérer l'augmentation de la durée de cotisation à 43 annuités et supprime les régimes spéciaux. Le Congrès considère que la prétendue suspension de la réforme des retraites, inscrite dans le PLFSS 2026, est en réalité la validation de l'application de la réforme des retraites à 64 ans, seulement décalée d'un an, alors que des millions de travailleurs ont manifesté depuis 2023 pour exiger l'abrogation de cette contre-réforme. Cette prétendue suspension de cette contre-réforme contenue dans le projet de budget Lecornu n'est donc qu'une arnaque destinée à maintenir en place le gouvernement à travers des arrangements politiques. Ce décalage de l'application de la réforme de 2023 s'accompagne de mesures d'austérité telles que toutes et tous seront perdants. Lors du premier quinquennat, le président Macron a été contraint de reculer sur le projet Macron-Melevoye de retraite par points suite à la mobilisation et le blocage du pays à partir du 5 décembre 2019. Pour autant, il n'a pas renoncé au régime universel puisqu'il envisage de rouvrir les discussions pour mettre en place une réforme des retraites par points et ouvrir la voie à la capitalisation. Le Congrès réaffirme son opposition à tout système de retraite par points. Le Congrès entend regrouper les personnels et chercher l'action commune sur la base des revendications sur lesquelles des millions se sont mis en grève et en manifestation en 2023 et en 2019, abrogation de la réforme Macron-Borne, ni retraite par points, ni capitalisation, retraite du budget Macron-Lecornu. Avec sa confédération et la FGFFO, le Congrès réaffirme son attachement à la retraite par répartition et au maintien de tous les régimes, dont les régimes spéciaux. Il revendique le maintien du code des pensions civiles et militaires pour tous les fonctionnaires, calculé sur la base des 6 derniers mois avec intégration des primes pour améliorer le niveau de retraite. Il dénonce toute tentative d'instauration d'une caisse de retraite pour les fonctionnaires. Le Congrès continue de revendiquer un retour de la retraite à 60 ans et 37,5 annuités sans décote. De Romain. Augmentation générale des salaires. Alors que l'inflation de ces dernières années a pris tous les salariés à la gorge, le Congrès exige, avec sa confédération, l'augmentation de tous les salaires du public comme du privé. Il rejette l'année blanche prévue dans le budget Macron-Lecornu gel du point d'indice, des traitements, des pensions et des minima sociaux. Avec sa confédération, le Congrès revendique le rétablissement de l'indexation des salaires sur l'inflation. Les grilles indiciaires actuelles s'enfoncent toutes sous le niveau du SMIC en catégorie C et même en catégorie B tandis qu'en catégorie A, elles sont rattrapées par le niveau du SMIC. La soi-disant revalorisation du milieu de carrière pour les enseignants qui contenait des mesures bien insuffisantes a été retoquée et rien n'est prévu pour compenser le tassement des grilles. Avec la FGFO, le Congrès revendique 10% d'augmentation de la valeur du point d'indice immédiatement, puis l'ouverture de négociations pour le rattrapage du pouvoir d'achat perdu depuis 2000, à hauteur de 32,7% du point d'indice. Pour respecter la cohérence générale de la grille de la fonction publique, le Congrès revendique, avec la FGFFO, un démarrage de la grille de catégorie A à 160% du SMIC, de catégorie B à 140% du SMIC et de catégorie C à 120% du SMIC. Le Congrès exige une revalorisation totale de la grille indiciaire. Le Congrès exige une révision totale de la grille indiciaire pour en finir avec le tassement de la grille pour qu'un changement d'échelon entraîne une réelle augmentation de salaire. La logique indemnitaire engagée par le ministre Blanquer a instauré des primes d'attractivité pour les enseignants en début de carrière et aggravé le RIFSIP pour les autres corps. L'augmentation de l'ISO, de l'ISE et des IFS pour solde de tout compte ne peut se substituer à une véritable revalorisation indiciaire. Le Congrès réaffirme son refus du pacte qui institue des blocs de missions supplémentaires attentatoires au statut. Le Congrès revendique le retrait du pacte et le versement de l'enveloppe dévolue à tous les personnels sans contrepartie. Le Congrès revendique l'intégration des primes statutaires dans le traitement avec compensation des cotisations qui en découlent. Il refuse les politiques indemnitaires qui individualisent les carrières des agents de la fonction publique et instaure des augmentations au mérite qui ne font que creuser les inégalités entre fonctionnaires et aggravent la mise en concurrence entre les personnels. À ce titre, il exige l'abrogation du RIFSIP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Ce régime indemnitaire permet de sous-rémunérer les agents en privilégiant uniquement l'indemnitaire, fortement individualisé et aléatoire. Le RIFSIP se traduit par des politiques indemnitaires locales très différentes les unes des autres. La prétendue reconnaissance du mérite comme critère d'attribution des primes relève de l'arbitraire, puisqu'elle se fonde sur la performance qui ne correspond en rien aux missions de service public, ni au statut, puisqu'elle remet en cause la séparation du grade et de l'emploi, principe fondateur du statut de la fonction publique. Il exige aussi l'abrogation du RIPEC, clone du RIFSI pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs. Le CIA versé aux ATS ne doit pas être versé au mérite et selon la notation du supérieur hiérarchique, mais doit être versé à montant égal pour chaque corps. De même, le Congrès réaffirme son exigence d'abrogation de PPCR qui pérennise l'austérité et instaure l'arbitraire pour l'avancement avec des entretiens de carrière et des entretiens individuels annuels aux critères d'évaluation subjectifs. Compte tenu que l'accès à la hors classe est conditionné par une appréciation gravée dans le marbre portée par la hiérarchie lors du troisième rendez-vous carrière couperet, l'AFNEC-FPFO exige à minima que cette appréciation soit revue à la hausse à la demande de l'agent. Le Congrès défend également une augmentation du pouvoir d'achat des retraités et demande le retour à l'indexation générale des retraites et pensions de réversion sur les hausses de salaire. Le Congrès demande l'augmentation des frais de déménagement pour les personnels et directeurs soumis à l'obligation de mobilité. Le Congrès revendique l'annulation immédiate du jour de carence et le rétablissement à 100% du taux de remplacement du traitement pour les périodes de congés de maladie ordinaires. Le Congrès dénonce les incidences découlant de l'application du décret N2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raisons de santé, notamment concernant la réduction de l'indemnité de vie chère pour les agents en arrêt maladie dans les départements d'outre-mer. Le Congrès revendique le maintien de la majoration de traitement outre-mer en cas d'arrêt maladie et l'abandon de toute application locale de cette mesure. Le Congrès revendique le maintien de la majoration de traitement outre-mer en cas d'arrêt maladie, d'évacuation sanitaire, de congé d'accompagnement, de congé restreint et revendique l'extension du congé d'accompagnement à tous les fonctionnaires d'État de Wallis et Futuna compte tenu des carences en structure médicale locale. Le Congrès revendique le respect du droit de tous les agents de bénéficier des frais de déplacement ou de liste et de son augmentation. Le Congrès revendique l'augmentation significative, à minima à hauteur de l'inflation, des frais de déplacement et de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement, ISR, en prenant en compte l'intégralité des déplacements dans la journée. Il revendique son versement du premier au dernier jour du remplacement. Le Congrès rappelle que les guiches vivent toujours sous le seuil de pauvreté avec un temps partiel imposé. Il réaffirme ses revendications, un statut de fonctionnaire d'État, un vrai salaire avec un temps plein pour 24 heures travaillées, abandon des piales et des pas. Le Congrès rappelle que les AED ont également une situation précaire avec désormais une mission en intérieur. Le Congrès se félicite de l'obtention d'une augmentation indiciaire de 49 points pour les personnels infirmiers suite à la mobilisation des personnels avec FO. Le Congrès revendique son versement à tous les personnels sans contrepartie ni nouvelles missions, à commencer par les corps de fonctionnaires qui en bénéficient actuellement dans les autres versants de la fonction publique et dans le cadre du Ségur et de son extension assistants sociaux notamment. Le Congrès revendique également que les médecins de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche puissent bénéficier de la prime Ségur de 517 versée aux autres médecins des deux autres versants de la fonction publique. Le Congrès revendique l'attribution de la NBI handicap à tous les personnels médicaux santé sociaux sans condition d'attribution. Le Congrès refuse le principe d'une part variable pour l'indemnité RP+, et revendique le versement de sa part la plus haute à égalité entre les personnels. Il rappelle son exigence de voir les indemnités RP et RP+, versées à tous les personnels de manière égalitaire, y compris aux secrétaires de circonscription, aux personnels assistants sociaux et aux AED et IH qui sont soumis à un tarif minoré. Le Congrès se félicite de l'obtention du rattrapage de ces primes depuis leur instauration mais refuse le cadre ministériel imposé de prescription quadriennale. Il revendique l'octroi de la prime, l'RP et RP+ pour les IH, les AED et les assistants sociaux depuis 2015, date de la mise en place des RP et RP+, et ce de manière automatique. Le Congrès demande le versement régulier mensuel des primes RP, RP+, dès le mois de septembre et afin d'éviter les pertes sociales, la mise en place d'un échelonnement des remboursements systématiques avec possibilité de refus de celui-ci de la part de l'agent. Le Congrès mandate le LSF pour porter ses revendications auprès du ministère. 3 Romains. Défense et extension du statut général et des statuts particuliers. La défense du statut général de 1946 et des statuts particuliers et le refus de toute logique de contractualisation constituent un enjeu majeur pour notre fédération. En effet, la privatisation de la fonction publique s'est toujours heurtée aux remparts que constitue le statut défendu par les personnels. C'est pourquoi le gouvernement voudrait en finir avec la structuration par corps pour mettre en place des filières de métiers. Avec la FGFO, le Congrès rappelle son attachement à une fonction publique de carrière contre une fonction publique de métier ou d'emploi. Il revendique l'abrogation de la loi dite de transformation de la fonction publique, la suppression des LDG et le rétablissement des CAP de corps de plein exercice. Il revendique que tous les emplois permanents de l'État soient occupés par des fonctionnaires. Abrogation de la loi de transformation de la fonction publique. La loi de transformation de la fonction publique vise notamment à précariser tous les personnels en détruisant les garanties attachées au statut de la FP par la généralisation de la contractualisation aux dépens de l'emploi statutaire. Elle remet également en cause les instances de représentation des personnels prérogatives des CAP, transformation des CHSCT en formation spécialisée des CSA, s'attaquant ainsi directement au statut des personnels. Elle instaure l'arbitraire et les passe-droits en privant les CAP de leurs prérogatives de contrôle sur le déroulement de carrière des personnels mutation, notation. Avec la FGFO, le Congrès revendique l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique, le rétablissement des CHSCT, le rétablissement de la compétence des CAP et des CCP en matière d'avancement et de mobilité, le rétablissement des CAP de corps, le respect du statut général qui prévoit que tous les emplois permanents de l'État doivent être occupés par un fonctionnaire, le retour au paritarisme issu du statut général de 1946 qui est la base de la protection des fonctionnaires avec la garantie de l'emploi. Droit au déroulement de carrière non à l'accompagnement PPCR, abrogation de PPCR, le protocole PPCR relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, non content d'entériner le gel des salaires, instaure les rendez-vous carrière et l'accompagnement continu. Le Congrès s'oppose à ce principe d'évaluation par le biais ou non d'entretien professionnel où il ne s'agit plus de noter la manière de servir des fonctionnaires d'État sur la base d'obligations définies nationalement mais de juger l'engagement selon le projet local et les réformes, remettant en question l'indépendance découlant du statut de fonctionnaire d'État et ouvrant la voie à une contractualisation individuelle et à un devoir de résultat. Chaque agent est renvoyé à une relation individuelle avec son évaluateur, lui-même soumis à évaluation sur la réalisation de ses propres objectifs, et la liberté de l'agent de contester est entravée. L'accompagnement PPCR vise à transformer les fonctionnaires en stagiaires à vie pour mieux les mettre au pas. Les propositions du ministre Geffray concernant la lutte contre les inégalités qui prévoient un accompagnement renforcé et des inspections en résidence pour 15% d'établissements pour lesquels les résultats des élèves ne sont pas jugés assez bons constituent une provocation. Le Congrès s'oppose à cette nouvelle lubie ministérielle. La FNEC FPFO se tiendra aux côtés des personnels qui refusent d'être pointés du doigt comme responsables des difficultés scolaires de leurs élèves. Le Congrès revendique l'abandon de PPCR, de son évaluation et de son accompagnement, l'abandon du RICIP et du RIPEC et des dispositifs d'individualisation de la rémunération, le rétablissement de toutes les prérogatives des CAP, le maintien ou la création des barèmes fondés sur l'ancienneté pour les promotions et l'avancement de tous les personnels dès qu'ils en remplissent les conditions au rythme le plus rapide. Un véritable déroulement de carrière qui garantit l'accès à l'échelon terminal de son corps pour une carrière complète, bénéfice des dispositions prévues par le décret N 2023-729 du 7 août 2023 sur le classement étendu aux lauréats des sessions antérieures à 2023, y compris lorsque la carrière n'est pas exclusivement salariée dans la fonction publique. La fin d'un déroulement de carrière des personnels de direction basé sur des critères opaques, éroulement pour lequel il est malvenu de résister aux pressions hiérarchiques, en augmentation. Le Congrès condamne la multiplication des grades à accès fonctionnel GRAF, dont les conditions d'accès n'ont plus rien à voir avec les règles statutaires. C'est notamment le cas avec la classe exceptionnelle pour les attachés, les personnels enseignants, CP et psyan. Abrogation de toutes les lois qui s'en prennent au statut, défense du cadre national de l'école. Le Congrès réaffirme son exigence d'abrogation de la loi Peillon dite de refondation avec notamment les rythmes scolaires Peillon et la mise en place des projets éducatifs de territoire PET ainsi que de la loi Hamon. Le Congrès réaffirme sa revendication d'abrogation de la loi Blanquet dite pour une école de la confiance au recours accru à l'expérimentation, reconnaissance des jardins d'enfants habilités à dispenser l'enseignement en lieu et place des écoles maternelles et la création d'un vivier de contractuels alternants et AED pré-pro. Mutualisation des personnels ICH avec les PIAL, prétendu devoir d'exemplarité, le Congrès exige l'abandon des évaluations d'écoles et d'établissements et ces évaluations internes auto-évaluation et externes qui associent inspecteurs RIS, chefs d'établissement, conseillers RP pédagogiques, des enseignants, les associations de parents, les associations partenaires, les élus, les élèves. Le Conviv rappelle que ces évaluations ne figurent pas dans les obligations réglementaires de service et ne peuvent à ce titre être imposées aux enseignants. La FNEC FPFO se tiendra aux côtés des personnels qui subiraient des pressions. Le Congrès s'oppose à la mise en place d'une hiérarchie intermédiaire, référent directeur, chargé de mission d'inspection du second degré CMI 2D, CPC invité à s'engager dans des fonctions d'encadrement, chef d'établissement qui évalue leurs collègues, chef d'établissement adjoint. Il refuse ces remises en cause statutaires et réaffirme son attachement aux prérogatives des différents corps, en particulier des corps d'inspection. Le Congrès exige l'abrogation de la loi RILAC et le retrait de ses décrets d'application. Avec la loi RILAC, le directeur est placé sous l'autorité académique à travers une délégation de compétences, devenant un quasi-supérieur hiérarchique des autres enseignants, chargé d'entériner et de mettre en œuvre les décisions du conseil d'école, renforçant par là même le cadre territorial de la loi ayant et la mainmise des élus et autres partenaires de l'école. Les décrets d'application de la loi RILAC créent des référents direction d'école, modifient les missions des directeurs pour renforcer leur rôle de pilotage pédagogique, instaure une évaluation spécifique pour les mettre au pas. Le Congrès exige le maintien des statuts particuliers et des missions des corps d'inspection et la revalorisation des carrières des inspecteurs sans contrepartie. Le Congrès exige l'arrêt des dispositifs RH de proximité et des feuilles de route locales RH qui visent à renforcer le management territorial. Le Congrès exige l'abandon de l'expérimentation marseillaise Notre École, faisons-la ensemble et toutes les formes d'expérimentation comme celle de l'école, faisons-la ensemble. Le Congrès exige la mise à disposition de tous les moyens nécessaires pour que les écoles et les établissements puissent fonctionner. Il revendique le retour au cadre national et l'arrêt des profilages des postes. Avec sa confédération, le Congrès condamne les velléités de remise en cause des congés payés et ou leur monétisation et s'opposera à toute nouvelle tentative de suppression de jours fériés et d'allongement du temps de travail. Le Congrès condamne les propositions issues de la Convention citoyenne sur le temps de l'enfant qui aboutiraient à des organisations scolaires différentes d'un territoire à l'autre, passage de la semaine à 5 jours, obligation d'élaboration du PET, obligation de mise en place d'un comité de pilotage et de coordination du PET. Il demande l'abandon des propositions de la Convention citoyenne. Le Congrès réaffirme son exigence d'abrogation des décrets Payon, Hamon, Blanquet. Suite à la Convention citoyenne sur le temps de l'enfant, le Congrès réaffirme son exigence d'une norme nationale de 4 jours travaillés pause du mercredi sur 36 semaines partout dans le premier degré, avec une alternance de congés de 7 semaines travaillées, 2 semaines de congés et le maintien des 2 mois de vacances d'été. Il réaffirme son exigence de maintien du cadre national de l'école, d'arrêt des PET, le respect de la liberté pédagogique de chacun et refuse le développement d'une école des territoires via des PET des nouvelles générations, des conseils d'école et des conseils d'administration aux prérogatives renforcées comme le propose la Convention. Retrait du pacte d'abord présenté comme un élément de revalorisation, le pacte a été reconnu par le ministre comme un moyen de faire effectuer aux enseignants des tâches supplémentaires, dont beaucoup se substituent aux missions de corps existants et sont attentatoires au statut. Intervention en 6e pour les PE qui n'a pas eu du tout le succès escompté par le ministère, remplacement de courte durée dans le 2e degré, investissement dans les projets pédagogiques, innovant du CNR Conseil National de la Refondation, participation au dispositif de Vorfait, coordination, référent, tutorat de nouveaux professeurs, accompagnement des enseignants qui incluent des élèves en situation de handicap, mentorat de ses élèves, austérité budgétaire oblige, le ministre Geffrey a annoncé la réduction de l'enveloppe dévolue au pacte et le recentrage sur le RCD, devoirs faits et les stages de remis à niveau entraînant un arrêt des rémunérations pour certaines missions effectuées précédemment rémunérées en HSE ou IMP. Le Congrès refuse le pacte et exige que toute enveloppe dévolue au pacte soit utilisée pour revaloriser tous les personnels sans contrepartie. Non au choc des savoirs malgré les 2 votes défavorables du CSE et le rejet par l'ensemble des personnels, le ministre persiste à refuser d'abroger le choc des savoirs. Avec la mise en place des groupes, qu'ils soient hétérogènes ou non, qu'ils changent en cours d'année ou non, il y a autant d'organisations que de collèges avec le plus souvent l'éclatement du groupe classe. Lorsque ces groupes sont de niveau, ils mettent en concurrence les élèves les plaçant ainsi dans des conditions de travail anxiogènes. L'organisation en barrette génère des emplois du temps détériorés, la multiplication des trous pour les enseignants et les élèves, le non-respect de VUX d'emploi du temps. En particulier, pour les collègues qui jusqu'ici bénéficiaient d'aménagements d'emploi du temps pour raisons de santé. C'est aussi moins de garanties sur l'enseignement des lettres classiques. Des dédoublements et des options ont été supprimés. L'heure de technologie en 6e n'a pas été rétablie et les élèves de 6e ont donc une heure d'enseignement en moins par semaine. L'application du choc des savoirs en 4e et 3e est un pas de plus vers la territorialisation de l'école. La généralisation des évaluations nationales des élèves du CP à la seconde et en CAP s'inscrit dans un dispositif de pression permanente sur les personnels qui remet en cause la liberté pédagogique des enseignants. Le Congrès ne l'accepte pas et condamne la mise en concurrence des établissements scolaires qui se fait au travers de ces évaluations nationales. Le Congrès réaffirme son exigence d'abrogation du choc des savoirs et de ses mesures. Non au corps unique, le gouvernement s'est attaqué au statut particulier des professeurs des écoles en modifiant le décret de 1990 pour ajouter le collège comme lieu d'affectation possible pour les PE. Il remet également en ce sens en cours les statuts particuliers des certifiés et agrégés. De même, un décret permet aux PLP de pouvoir exercer en lycée général et technologique ou en collège. Les PLP dont les filières seraient supprimées pourraient aller exercer en collège ou à l'école primaire. Les enseignants fonctionnaires d'État seraient donc interchangeables au mépris de l'intérêt des personnels et des élèves avec une dégradation de l'enseignement. Le Congrès revendique l'abrogation du décret du 6 juillet 2024 de déconcentration de la gestion des professeurs agrégés qui dégrade les conditions de travail des personnels administratifs et remet en cause l'égalité de traitement sur tout le territoire faute d'harmonisation et de régulation nationale pour les agrégés. Le Congrès réaffirme sa revendication de l'abrogation du décret du 1er février 2017 créant un corps unique intergré de psy en issue de la fusion des psychologues scolaires du 1er degré et des copies du 2e degré. Le Congrès refuse cette marche au corps unique, revendique le maintien des statuts particuliers de corps et avec la garantie de pouvoir être affectés sur leur lieu d'exercice conforme au statut avec la création des postes statutaires nécessaires. Assise de la santé scolaire, le Congrès réaffirme la nécessité d'avoir des services santé et sociaux de l'éducation nationale, le recrutement de médecins titulaires, la création massive de postes d'infirmières et assistants ES sociaux est urgente. Lors de l'audience fédérale du 25 octobre 2025, le ministre Geffray a indiqué, concernant les mesures issues des assises de la santé scolaire, qu'il n'y a pour le moment pas de réforme de la santé scolaire. Pourtant, cette réforme est bien en marche dans les départements, ce qui a été très clairement confirmé par les représentants du ministre lors de l'audience du 8 décembre. Recrutement des psys, l'un conseiller technique en santé mentale a été acté depuis plusieurs semaines. Plusieurs départements ont déjà recruté ce personnel et ont édité des fiches de poste qui cadrent leur mission comme la contribution à l'activité du pôle médico-social du département, la participation au recensement et au suivi de la mise en niveau des protocoles santé mentale, animation d'un réseau qui réunit les psychos, EDA et EDO sur le sujet de la santé mentale, certaines réunions des pôles de santé, bien-être et protection de l'enfance ont déjà eu lieu, les chefs d'établissement sont sommés de recruter des référents santé mentale sans possibilité de nommer ni les ASS, ni les médecins, ni les infmes, ni les psys, parfois via une application qui leur présente un menu déroulant avec uniquement la possibilité de nommer des enseignants et aucun autre personnel. Des PAP sans avis de médecins de l'éducation nationale sont mis en place alors que la circulaire du 22 janvier 2015 indique que cet avis est nécessaire. Les établissements sont tenus d'élaborer des protocoles de santé mentale. Dans le premier degré, des directeurs et directrices d'école sont nommés référents santé mentale pour tout ou partie d'une circonscription. Le Congrès s'oppose au projet de nouvelle circulaire de politique éducative et sociale et de santé en cours d'écriture qui vise à mutualiser les missions des différents corps de la santé scolaire et à rompre avec le cadre national de leurs missions via les feuilles de route des pôles départementaux. Pour le Congrès, la mise en œuvre de mesures départementales avec des décisions locales confirme la menace sur l'indépendance des professionnels et le cadre national de leurs missions et statuts. Le Congrès rappelle que la santé des élèves n'a pas de prix et que les moyens doivent donc être mis pour les protéger, que la visite médicale doit être un droit pour l'enfant et une obligation pour le gouvernement d'en assurer l'effectivité et l'exigence de maintenir un cadre national des missions et des statuts sans opposition aux référents en tout genre et var, santé mentale. Les professionnels compétents existent autant que de besoin, l'urgence de débloquer des moyens en pédopsychiatrie, la nécessité de redonner les moyens à la sécurité sociale de financer les déplacements pour tous ceux qui ne peuvent assurer les trajets permettant des consultations au CAP et autres lieux de soins, la nécessité de redonner les moyens à l'hôpital pour augmenter les places en pédopsychiatrie et en finir avec les listes d'attente, dénonce la responsabilité confiée à des adolescents via le module aidé. La détection de la souffrance psychique doit rester uniquement entre les mains de professionnels médico-sociaux. Le Congrès réaffirme son refus des mesures des Assises de la santé scolaire et son opposition à la création de la fonction de psy, BN conseiller technique en santé mentale et au regroupement des quatre corps des infmes, AS, psy, BN et médecins sous l'autorité du DASEN à la mutualisation des missions pour compenser la pénurie de personnel. Le Congrès invite les sections départementales à mettre à l'ordre du jour la réforme de la santé scolaire dans les réunions syndicales, les instances académiques pour rappeler nos revendications. Il invite les sections départementales à réunir les personnels et à adopter des motions à ce sujet. Le Congrès mandate la CEF pour qu'elle prenne toutes les initiatives pour mobiliser sur ces revendications. Et var, à l'heure où le conservatisme de tout poil menace nos écoles, le gouvernement impose la mise en place d'un programme d'évarmer sans allouer de moyens au dispositif et dans un contexte d'austérité sans précédent. Le Congrès dénonce les pressions exercées sur les personnels pour mettre en place ce programme, parfois contre leur volonté, non formée et isolée. Le Congrès revendique le recrutement et la formation de personnels médico-sociaux pour dispenser ces séances. Droit à mutation, le Congrès refuse la remise en cause du droit à mutation auquel les personnels sont confrontés depuis plusieurs années. C'est notamment lié à la politique générale de diminution des postes mais également au fait que tous les postes vacants ne sont pas utilisés comme support possible de mutation pour les personnels titulaires, de nombreux postes étant préemptés pour fournir des supports aux personnels stagiaires voire aux contractuels. Le Congrès revendique que tous les postes soient offerts au mouvement des titulaires, comme le prévoit le statut. Le Congrès revendique un droit à la mobilité pour tous les fonctionnaires stagiaires ATS sans restriction. Le Congrès demande que toutes les académies proposent des postes au mouvement interacadémique et dans chaque corps. De plus, le développement de la mobilité forcée comme la nomination sur des postes géographiques, y compris à titre définitif, remet en cause le droit d'être nommé sur un poste précis et choisi. Le Congrès revendique que les affectations s'effectuent sur la base de VUX précis librement choisis et d'un barème précis, contrôlable et vérifiable par les commissions administratives paritaires. Le Congrès s'oppose au poste BOP, au poste profilé tant au niveau national qu'académique ou départemental et le remplacement des tableaux de mutation par la multiplication des postes offerts à la place de l'emploi public qui dénature le droit à mutation. Il refuse les expérimentations diverses qui permettent le recrutement déréglementé. Le Congrès dénonce les mobilités forcées, imposées ou fortement suggérées dans le cadre de la réforme territoriale. Le Congrès demande que les docteurs rectorales demandées sur un poste vacant soient acceptées par les rectorats sans aucun frein. Le Congrès revendique que les mutations demandées par les collègues dans le cadre des priorités prévues à l'article L512-19 du Code général de la fonction publique rapprochement de conjoint, handicap, CIM soient prononcées y compris en surnombre. Compte tenu des difficultés d'éloignement géographique et familial, le Congrès exige des moyens supplémentaires à la hauteur des besoins de chaque territoire d'outre-mer afin de permettre au personnel ultramarin d'obtenir satisfaction lors des opérations de mutation. Droit au temps partiel et à la disponibilité, le Congrès constate que dans de nombreuses académies, le droit au temps partiel et à la disponibilité sont remis en cause pour les personnels. Comme pour le droit à la mutation, cela est lié à la politique générale de diminution des postes. Le Congrès revendique que tous les personnels, quel que soit leur poste, puissent bénéficier d'un temps partiel et de choisir leur quotité, quel que soit leur poste et leur fonction. Le Congrès revendique que tous les personnels puissent bénéficier d'une disponibilité tout en conservant le bénéfice de leur poste à leur retour. Défense du droit statutaire à la formation. Le Congrès considère que la formation initiale et continue est un droit statutaire pour lequel il faut mettre les moyens nécessaires. Il rappelle qu'étant un droit, la formation doit être librement consentie. Il exige que les modules de formation soient intégralement organisés sur le temps de travail et pour les enseignants sur les heures de cours, et que les frais de déplacement sur le lieu de formation soient remboursés. Il exige que les personnels en formation soient systématiquement remplacé par des collègues titulaires remplaçants. Il s'oppose aux tentatives de mise en place de formation à distance sur le temps libre de l'agent qui permet de surveiller les collègues selon le jour, l'heure et le nombre de connexions et dénonce les formations imposées pour faire passer les réformes. Le Congrès revendique l'abrogation du décret 2019-935 du 6 septembre 2019 qui prévoit la possibilité pour les enseignants d'effectuer des formations pendant les vacances. Le Congrès rappelle que la FMEC-FPFO, avec sa confédération, s'est opposée à la mise en place dans la fonction publique du compte personnel de formation CPF. Il revendique son abrogation et le retour au droit individuel de formation DIF qui garantissait un vrai droit à la formation. Le Congrès demande une augmentation des enveloppes du congé de formation professionnelle afin qu'il puisse bénéficier à plus de collègues. Le Congrès demande que le DPC développement professionnel continu qui est obligatoire pour les professions médicales et paramédicales soit mis en place. Défense de la formation initiale depuis sa mise en place en 2009, la FMEC-FPFO dénonce les conséquences désastreuses de la mastrisation, en particulier le déficit organisé de recrutement qui aboutit à ce que chaque année, les postes offerts au concours dans de nombreuses filières ou académies ne soient pas totalement pourvus. La loi Blanquet a encore aggravé les conséquences de la mastrisation avec une titularisation à BAC plus 6. Le Congrès condamne la prétendue préprofessionnalisation qui réorganise le recrutement d'étudiants sous-payés. Le Congrès condamne la prétendue préprofessionnalisation qui organise le recrutement d'étudiants sous-payés et qui les laissera sans perspective professionnelle en cas d'échec au concours licence 3. C'est aussi une nouvelle porte d'entrée que s'ouvre le gouvernement pour une contractualisation massive. Dernier avatar d'une mastrisation qui a détourné les étudiants des concours d'enseignement, la réforme de la formation des enseignants et des concours a été passée en force au printemps 2025 par Elisabeth Borne, avec une copie strictement identique à celle de Nicole Belloubet l'année précédente. En conséquence, la FNEC-FPFO a réitéré sa revendication de moratoire de cette réforme. En effet, le décret du 10 avril 2025 est porteur des graves reculs, maintien de la mastrisation après le concours passé en fin de PEL 3, élèves fonctionnaires durant le M1 puis fonctionnaires stagiaires durant le M2, les lauréats seront surchargés d'exigences multiples. Maintien de concours où la part disciplinaire est réduite à peau de chagrin, en particulier à l'oral épreuve d'admission, où, plus que la maîtrise des connaissances disciplinaires ou l'esprit critique, c'est la docilité aux attentes hiérarchiques qui sera évaluée. Barrage supplémentaire entre le M1 et le M2 pour des lauréats de concours qui seraient accédés insuffisance manifeste. Inégalité devant le concours de professeurs des écoles, ceux ayant réussi les deux premières années d'une licence spéciale P étant dispensés des épreuves écrites d'admissibilité fast-track. Des rémunérations de misère pour des lauréats de concours de catégorie A en net, moins que le SMIC durant l'année d'élève fonctionnaire, à peine 10% au-dessus lors de l'année de fonctionnaire stagiaire. Face à cette catastrophe organisée, le Congrès exige abandon de la mastrisation, concours au niveau licence RORS, agrégation avec une formation rémunérée à plein temps sous statut, pouvant être reconnue comme valant grade de master, la prise en compte des années de formation pour l'avancement de carrière, retour à des épreuves disciplinaires pour les concours, avec en amont des licences disciplinaires, aucune inégalité devant le concours, non fast track, même épreuve pour tous. La suppression de l'engagement de 4 ans post-titularisation sous peine de devoir rembourser les sommes perçues défense des fonctionnaires stagiaires. Le Congrès rappelle que les personnels stagiaires sont lauréats d'un concours, ce qui implique que l'État employeur doit mettre en place une formation adaptée qui permette la titularisation de tous les fonctionnaires stagiaires. Il refuse les pressions qui pourraient être exercées et s'oppose à tout licenciement. Le Congrès revendique une véritable formation pour les fonctionnaires stagiaires sans avoir à exercer en responsabilité dans les écoles, établissements, services. En tout état de cause, le Congrès refuse que les obligations réglementaires de service des fonctionnaires stagiaires contraints d'exercer dans les écoles, établissements, services soient alourdies, y compris au motif de formation et a fortiori pendant les congés. Le Congrès invite les syndicats à poursuivre l'intervention dans les écoles, les établissements, les services, les INSP et à prendre les initiatives en direction des DSDEN, des rapports des INSP et du ministère pour la défense concrète des stagiaires et de leurs conditions de travail. Le Congrès exige que les stagiaires du 1er degré comme du 2e degré convoqués au jury académique dès l'annulation du stage puissent être accompagnés par un représentant syndical. Le Congrès demande que les fonctionnaires stagiaires soient nommés sur le poste vacant le plus près de leur domicile. Outils informatiques, le Congrès dénonce la multiplication des nouveaux outils informatiques, souvent développés par des entreprises privées, qui se révèlent être inévitablement inadaptés et soumis à une connexion Internet inefficace et instable, ce qui complexifie considérablement les conditions de travail et dégrade tout aussi considérablement la qualité du service rendu. Ces logiciels sont par exemple hop.le, Renoir RH, Lien, Aria Plus. Le Congrès dénonce les plateformes numériques devenues des outils de contrôle de ce qui est fait en établissement par le ministère et les collectivités. Le Congrès revendique le retour à des outils publics de gestion conformes aux intérêts des agents qui les utilisent et aux usagers. 4. Promain. Contractuel, ICH, aide, combattre la précarité contractuelle enseignant. Et ATS, le Congrès dénonce une volonté d'intensifier le recours aux contractuels par la diminution de postes au concours. Le Congrès s'oppose à cette logique de la loi TFP qui conduit à précariser les agents publics et s'en prendre au statut. Elle aboutit à livrer les personnels à la misère financière et à l'habitat local avec des recrutements au fil de l'eau et sans garantie de réemploi. Le Congrès revendique la mise en place immédiate d'un plan de titularisation pour tous les contractuels qui le souhaitent. Bénéficier du statut de la fonction publique est le premier moyen pour combattre la précarité. Le quasi-statut organisé par le gouvernement ne peut pas être une perspective pour les contractuels. Le Congrès dénonce l'évaluation annuelle qui est faite des personnels en CDD. Cette évaluation, totalement arbitraire et opaque, conduit à la mise au chômage des personnels dans la plus libre impunité des rectorats. Le Congrès refuse la proposition d'exercice hybride médecine libérale, médecine scolaire contractuelle ouvrant la porte à la libéralisation de la médecine à l'éducation nationale. L'inflation galopante a obligé le gouvernement à augmenter à plusieurs reprises la valeur du SMIC. Le Congrès condamne cette course contre le SMIC qui conduit au versement, souvent en retard, de l'indemnité différentielle, entraîne un tassement des grilles et une plus grande paupérisation des agents contractuels, aggravée par une inflation galopante que le gouvernement refuse de combler. Le Congrès s'oppose à la multiplication des cadres de gestion des personnels contractuels, véritable carrière parallèle qui ferme la porte à toute perspective de titularisation. Le Congrès s'oppose au projet de nouveau cadre de gestion des personnels ZAT par lequel le ministère prépare la fin des recrutements statutaires selon le schéma mis en œuvre pour démanteler le service public des PTT ou encore celui de France Télécom. Le Congrès exige le strict respect des dispositions réglementaires prévoyant les cas de recrutement des contractuels temps partiel, temps complet, besoin permanent, besoin temporaire et qu'à l'approche des 6 ans de contrat, tout contractuel soit placé dans les conditions d'être CDI. Il exige également que soit respecté le principe d'un traitement à temps complet pour toute quotité au-delà de 70%. Le Congrès dénonce la pratique de certains rectorats qui licencient des collègues contractuels durant la 6e année de contrat CDD pour l'empêcher l'accès au CDI. Le Congrès exige que les contractuels en fin de contrat non renouvelables obtiennent de l'administration l'attestation employeur et bulletin de salaire afin de pouvoir percevoir leur indemnité journalière de France Travail auxquelles ils ont droit. Le Congrès exige la garantie de réemploi de tous les collègues contractuels en CDD dans l'attente de leur titularisation. Le Congrès revendique l'alignement des congés maladie des contractuels sur le régime des titulaires et l'abandon des jours de carence. Le Congrès demande une véritable portabilité du CDI dans toutes les académies sans condition, avec reprise du même contrat et maintien de la rémunération, seule garantie d'un droit à la mobilité effectif. Le Congrès demande que les contractuels de toutes catégories, sans exception, dans toutes les académies, puissent accéder au CDI. Les agents contractuels doivent pouvoir également bénéficier du congé mobilité dès qu'ils en font la demande. Le Congrès dénonce la pression exercée sur les personnels contractuels quant à leur future affectation. De Romain demande une gestion des affections dès le mois de juillet, dès l'affectation des titulaires, avec la prise en compte des priorités légales et de l'ancienneté de service. Il revendique pour tous les non-titulaires le respect du droit à la formation dès la prise de fonction et sur le temps de travail. Le Congrès refuse la précarité organisée pour les contractuels et revendique le recrutement immédiat et la hauteur des besoins de personnel sous statut, l'ouverture et le réabondement des listes complémentaires, l'ouverture de postes nécessaires et l'arrêt des fermetures, l'abrogation de la massisation et de la réforme blanquée des concours, la mise en place de concours exceptionnels, aucun licenciement de contractuels et la garantie de réemploi de tous les contractuels en CDD. La CDIsation des contractuels de toute catégorie, la titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent, la revalorisation des salaires et la création des grilles de rémunération nationale, un cadre de gestion nationale et le respect du principe de l'alignement des droits des contrats sur 12 mois et ou incluant les vacances scolaires. Ichaed, des statuts, un vrai salaire. Abandon des pielles et des pas. Le Congrès ne peut se féliciter de la CDIsation des LICH à 3 ans et des AED à 6 ans. Cette inégalité de traitement ne répond pas aux revendications des personnels concernés et les maintient dans la précarité. Le Congrès se félicite de l'abandon du projet de la fusion des LICH et des AED suite à la mobilisation des LICH en 2024. Le Congrès dénonce toujours les temps partiels imposés aux LICH et AED qui ne traduisent pas la réalité de leur travail et accroît leur précarité, tout comme il dénonce l'intention de généraliser les conventions multi-employeurs permettant de mettre à disposition des collectivités une main-d'œuvre au rabais. Le Congrès exige pour les LICH que la quotité de 24 heures hebdomadaires sur 36 semaines soit prise comme référence pour un temps plein et que les temps de trajet et de concertation soient considérés comme du temps de service. Concernant les AED, dénonce l'invisibilité de ses personnels et revendique le retour au statut de Miss pour ceux qui le souhaitent et la création d'un corps de fonctionnaires d'État avec des obligations réglementaires calquées sur celles de Miss. Il dénonce la dérive de l'annoncée des isations sous de faux prétextes pour les AED et celle des AED en préprofessionnalisation. Il exige un cadrage national des règles de recrutement et de gestion et le passage à un recrutement académique et non plus par établissement. Le Congrès exige que les droits et les missions des AED soient respectés. Le Congrès revendique pour ses personnels, l'IH et AED la création de statuts de la fonction publique et l'alignement des salaires sur les grilles de catégorie B. Ils demandent l'accès à une formation adaptée dès leur prise de fonction sur le temps d'accompagnement. Si l'attribution de la prime REP et REP+ représente un premier pas, le Congrès s'indigne du mépris que le gouvernement leur réserve en introduisant une indemnité moindre pour ses personnels considérés comme des agents de deux zones. Le Congrès exige que la prime soit portée au niveau de celle des autres agents et la rétroactivité de son paiement à la date de signature des contrats. Il refuse qu'elle soit réduite à l'application de la prescription quadriennale. Le Congrès revendique l'abandon des pôles inclusifs d'accueil localisés PIAL qui sont des instruments de précarisation des personnels IH. Les pôles d'appui à la scolarité visent à se substituer aux PIAL et les agrafent car ils permettent de contourner les notifications de la MDPH. Le Congrès condamne la mutualisation des aides aux élèves en situation de handicap qui, au-delà de la suppression organisée des RISD et de l'enseignement spécialisé, vit uniquement à faire des économies budgétaires sur la scolarisation des élèves en situation de handicap. Le Congrès exige le retour à une aide individualisée afin d'en finir avec ce faux-semblant en proposant un accompagnement judicieux et non en trompe-l'œil, en limitant le nombre d'élèves mutualisés dans une même classe et celui d'élèves accompagnés sur la semaine, une vraie aide individuelle en fonction des réels besoins notifiés par la MDPH et l'affectation des IH sur un seul établissement. Le Congrès revendique pour tous les IH et AED la création d'un véritable statut de la fonction publique avec les droits qui s'y rattachent, mutation, formation initiale et continue la création d'une vraie grille indiciaire, l'abandon des PIAL, des PA et de la politique de mutualisation des moyens pour les IH dans l'immédiat, le renouvellement automatique de tous les contrats des AED dès juin, l'augmentation des salaires avec l'alignement sur la grille de catégorie B, le versement de la prime REP-REP+ au niveau de celle des autres agents et la rétroactivité de son paiement à la date de signature des contrats de manière automatique, la mise en place systématique de la subrogation, l'octroi effectif des jours de fractionnement sous la forme de 2 jours de congés supplémentaires sur l'année civile en cours pour les IH, tel qu'il est défini dans la loi, la prise en charge de tous les déplacements et la revalorisation des indemnités kilométriques, l'abandon du forfait de nuit de 3 AH pour les AED et la comptabilisation effective des heures de service de nuit, du coucher au lever des élèves, un travail à temps complet de 24 AH d'accompagnement hebdomadaire sur 36 semaines, que l'indemnité de fonction ne reste pas de l'indemnitaire mais réinjectée dans le traitement, aucun temps partiel imposé, la création de brigades de remplacement qualifiées, l'accès à des formations qualifiantes à la hauteur des missions sur le temps de classe, l'accès à l'action sociale de droit à la mobilité interdépartementale sans rupture de contrat ni perte d'ancienneté, un cadre de gestion nationale et le respect du principe de l'alignement des droits. En particulier pour la grille des AED, le Congrès se félicite de l'augmentation des adhésions des IH et des AED au sein des syndicats de la FNEC-FPFO et de leur intégration dans les instances commissions exécutives, bureaux des syndicats, secrétariat départemental, les syndicats départementaux. Le Congrès soutient toutes les initiatives entreprises dans les départements, dans un cadre fédéral et avec les unions départementales, forces ouvrières, pour réunir les collègues et décider avec eux des moyens de gagner sur l'ensemble des revendications. Pour le Congrès, la défense des conditions de travail des IH est indissociable de celle du maintien et du développement des établissements et services médico-sociaux IME, ITEP, IMPRO. Oui. Pour la création de tous les postes nécessaires et le recrutement de personnel sous statut, contre la fermeture et la fusion des établissements, le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale a déclaré « Rien que pour l'éducation nationale, compte tenu de la baisse de la natalité, je pense qu'il est possible de supprimer 50 000 postes d'ici à 2032 ». C'est le mon remplacement d'un fonctionnaire sur 3. Le budget Macron-Lecornu prévoit la suppression de 4 000 postes devant les élèves pour la rentrée 2026. Inacceptable. Avec la Confédération, le Congrès exige l'arrêt des suppressions d'emplois et revendique les recrutements et les moyens nécessaires dans tous les versants de la fonction publique et revendique l'arrêt des restructurations, fusions et mutualisations et s'oppose à la suppression d'agences ou d'opérateurs publics. Les milliers de fermetures de classes ont provoqué une dégradation sans précédent des conditions de travail et d'accueil des élèves dans un contexte où le manque d'IH se normalise et où des milliers d'élèves sont toujours en attente de place dans les structures spécialisées ou adaptées. Le ministère a imposé une limitation drastique du nombre de listes complémentaires et le refus dans certaines académies de les recruter totalement. L'AFMEC-FPFO a soutenu la mobilisation des lauréats du concours dans le premier degré qui a permis de débloquer certains recrutements. Les conditions inacceptables liées au manque de personnel provoquent la colère et la résistance des personnels et des parents d'élèves qui se sont mobilisés dès la rentrée scolaire. Ces mobilisations, parfois en lien avec les comités de défense de l'école publique, ont permis d'obtenir des annulations de suppression de classes. Le Congrès condamne le recours aux brigades numériques de remplacement en lieu et place des personnels titulaires remplaçants et revendique la présence physique statutaire des professeurs auprès des élèves. Le Congrès revendique la création de brigades de remplaçants statutaires dans tous les corps administratifs, c'est-à-dire premier degré et deuxième des degrés, infirmières pour pallier les absences. Le Congrès s'oppose à toute fermeture d'établissements, écoles, collèges, lycées et lycées professionnels ou toute fusion et regroupement école et école, collèges et lycées, lycées et lycées professionnels. Le Congrès invite les syndicats départementaux à mettre les revendications concernant les postes au CUR des mobilisations pour le retrait du budget de guerre et d'austérité. Il invite les syndicats à prendre toutes les initiatives nécessaires dans l'action commune, y compris avec les parents d'élèves et en cherchant le soutien des élèves pour faire aboutir ces revendications. Il mandate la CELEF pour continuer de s'adresser aux autres fédérations et leur proposer d'organiser l'action efficace afin d'obtenir satisfaction sur nos revendications, annulation de toutes les suppressions de postes, création des postes statutaires nécessaires, mise en place immédiate du plan de titularisation pour tous les contractuels qui le souhaitent, recrutement en masse de personnel dans tous les corps, dans le cadre du statut, contre les fermetures, fusions, regroupements d'établissements. C'est Romain. Non à la réforme territoriale, loi de décentralisation, réforme territoriale, nouvelle gouvernance académique et expérimentation, une seule volonté, territorialiser l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et jeunesse et sport en attaquant le caractère national de l'éducation, les postes, les missions, les conditions de travail des personnels, leurs garanties statutaires et leurs obligations de service. Le Congrès réaffirme avec force que les attaques contre le statut général et les statuts particuliers affaiblissent le service public républicain. Pour le Congrès, le maintien du caractère national du service public d'éducation passe par le rétablissement de tous les services déconcentrés sur l'ensemble du territoire, des programmes et horaires nationaux, du baccalauréat et des diplômes nationaux. Le Congrès condamne le transfert de l'organisation administrative de l'éducation nationale aux régions académiques, après la nouvelle gouvernance qui a notamment vidé les services départementaux de leur substance, la transformation des recteurs d'académie en simples adjoints des recteurs de régions académiques sert avant tout un double objectif de suppression massive de postes par l'abandon ou la mutualisation de missions. Le Congrès dénonce toutes les mesures d'accompagnement mises en place pour compenser les fermetures de services et les mobilités forcées qui en découlent. Les personnels veulent conserver leur emploi et leur mission. Ils ne veulent ni des primes de restructuration, ni de la RH de proximité. De la même manière, le Congrès condamne l'instauration de services régionaux et interacadémiques qui éloignent les agents de leurs services de gestion et des instances de représentation. C'est la porte ouverte à la suppression de postes, à la mutualisation. Le CSA de région académique ou les CSA spéciaux départementaux se voient ainsi chargés de traiter les questions qui concernent des agents éloignés géographiquement de ces instances. C'est l'accroissement de l'inégalité de traitement quand les agents les plus éloignés de l'académie pilotent ne bénéficiant pas des mêmes informations, de la même attention ou des mêmes droits. Le Congrès réaffirme son opposition à la fusion des académies et la nécessité de réunir les personnels pour porter leurs revendications. Souvent sous couvert d'expérimentation, les gouvernements successifs souhaitent étendre la territorialisation de l'éducation nationale à toutes les missions et à tous les personnels. La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école 2005 prévoyait déjà la possibilité d'expérimenter en lien avec le projet d'école ou d'établissement élaboré avec les représentants de la communauté éducative. La loi Blanquet dite pour une école de la confiance permet au gouvernement d'aller encore plus loin. C'est encore et toujours la poursuite de la territorialisation où il s'agit d'accroître la tutelle des élus politiques sur le personnel, les écoles et les établissements, multipliant les ingérences des collectivités en matière d'organisation et de pédagogie. La création des cités éducatives, le développement des CLA contrats locaux d'accompagnement et TER territoires éducatifs ruraux s'inscrivent dans la même logique. Le Congrès exige l'abandon de tous ces dispositifs territoriaux. De même, le Congrès s'oppose à la transformation des administrations publiques en établissements publics autonomes ouvrant la voie à la privatisation et cherchant à intégrer les syndicats à leur cogestion. Le Congrès n'accepte pas la loi 3DS différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification qui instaure une double autorité sur les adjoints gestionnaires des collèges et des lycées, désormais appelés secrétaires généraux d'EPL. Le Congrès rejette toute forme d'ingérence d'élus politiques sur les personnels et sur les établissements. Pour le Congrès, la loi 3DS prépare la décentralisation de tous les personnels des collèges et des lycées. Pour le Congrès, s'attaquer au statut national des agents, c'est s'attaquer au caractère national de l'enseignement public. Ces dispositions de la loi 3DS traduisent donc la volonté de poursuivre le désengagement de l'État par des transferts de missions et de personnel aux collectivités de rattachement pour aller vers la liquidation de toute forme de service public républicain par le démantèlement de tous les cadres nationaux. Le Congrès appelle tous les membres des conseils d'administration des collèges et lycées à rejeter les conventions relatives à la loi 3DS ou leur avenant. Il les appelle également à dénoncer ces conventions quand elles ont été adoptées les années précédentes. Le Congrès dénonce toute forme de pression institutionnelle, qu'elles viennent des collectivités ou des directions départementales ou académiques. Le Congrès s'indigne du désengagement des collectivités territoriales qui se défaussent de leurs obligations réglementaires de financement relatives à l'école publique. La réforme de l'organisation territoriale de l'État a déjà conduit à la liquidation du ministère de la Jeunesse et des Sports et de tous ses services. Le Congrès constate que l'intégration de Jeunesse et Sports au ministère de l'Éducation nationale a bien servi un objectif d'abandon des missions de service public pour la jeunesse, les politiques sportives et le soutien à la vie associative. Cela s'est notamment traduit par la suppression de plus de la moitié des postes et de la transformation des missions des personnels. Le Congrès condamne la privatisation des politiques sportives par la mise en place de l'Agence du sport et les transferts de missions aux fédérations sportives et la réquisition des personnels. Le Congrès s'oppose à la privatisation de l'INS et au mécénat. Il invite les structures à prendre leur place dans les instances académiques de l'INS. Il s'oppose aux déréglementations pour les personnels de droit privé de l'INS. Le Congrès condamne la confiscation des budgets précédemment alloués aux politiques pour la jeunesse et l'éducation populaire afin de financer le service national universel SNU, récemment abandonné. Le Congrès réaffirme que l'éducation populaire est une conquête ouvrière essentielle. Il réaffirme avec force la revendication de la FNEC-FPFO, avec sa confédération, de rétablissement d'un ministère de la jeunesse et des sports de plein exercice, avec toutes ses missions et tous les personnels statutaires nécessaires pour les assurer. Le Congrès revendique le rétablissement de tous les postes, de toutes les missions, de tous les services départementaux, de tous les rectorats et l'abandon des régions académiques. Le Congrès s'oppose à toutes les mutualisations des services aux services interacadémiques ou interrégionales, au transfert des personnels d'État dans une autre fonction publique. Contre toutes les politiques de démantèlement des services publics, le Congrès réaffirme la nécessité de poursuivre les réunions avec les personnels, de les informer pour poursuivre et amplifier les mobilisations indispensables pour faire aboutir les revendications, pour préserver les services publics républicains et tous les acquis de la classe ouvrière. Cet roman, formation professionnelle, pour la défense des LP et d'une formation continue assurée par l'État lycée professionnel, retrait des réformes Macron-Borne-Grandjean. Tout en prétendant la considérer comme une voie d'excellence, les différents gouvernements Macron ont tous porté des attaques sans précédent contre la voie professionnelle. La FNEC-FPFO se félicite du combat mené contre ces attaques par son syndicat de la voie professionnelle, le SNUTAFO, et lui réaffirme son soutien. Le Congrès déplore que certaines CAP reçoivent de plus en plus d'élèves issus de dispositifs UVI ou CEPA par défaut, devenant des classes dites à profil remettant en cause le travail des PLP et compliquant celui des IH. Si pour le gouvernement, comme l'affirmait Elisabeth Borne, le problème de la formation professionnelle en France semble être le lycée professionnel, le Congrès réaffirme son mandat historique pour la défense des lycées professionnels publics laïcs sous statut scolaire, de leurs spécificités et de tout leur personnel PLP, DDFPT, PAD, IH. Les annonces du président de la République faites à Saint-Pécat sommet 2023 visent à transformer le LP en un outil exclusif du plein emploi pour les seuls intérêts des entreprises et du patronat, avec des cartes et des formations à la main des préfets, ajustées en fonction des intérêts locaux et entraînant une instabilité chronique pour les établissements, les formations, les personnels et les élèves. Ces derniers devenant de la main des UVRE bon marché dès la troisième jusqu'à la terminale, différenciée du bac professionnel, vecteur de déstabilisation et d'absentéisme pour ceux-ci et d'attaque frontale contre le statut des PLP et leurs conditions de travail. Le Congrès s'oppose à toute ingérence de l'entreprise, que ce soit au sein de bureaux ad hoc pour remplacer les dédiés FPP ou par l'entremise de professeurs là ceux-ci venant dicter au PLP les gestes et le savoir-faire local comme cela reste encore envisagé. Le Congrès s'oppose à toute carte des formations soumises à des intérêts locaux soumettant l'enseignement sous statut scolaire aux pressions économiques du marché et conditionnant le maintien des filières et des postes à la mise en place de projets particuliers et à une course à l'insertion contraire aux intérêts des élèves et de leurs projets. Le Congrès demande que la carte des formations professionnelles en milieu scolaire redevienne une prérogative exclusive de l'éducation nationale. Le Congrès condamne la transformation de l'année de TNL du bac professionnel entraînant la perte de 170 heures d'enseignement et l'instauration d'un parcours différencié, dit en Y, qui remet en cause le principe d'égalité et s'attaque au principe de l'école de la République, comme au statut des PLP. Le constat de cette année est sans appel. Même le ministre Geoffrey Lamet stigmatise des élèves, déjà parmi les plus défavorisés, et favorise l'absentéisme. Aucun aménagement, retrait de la terminale en Y. Le Congrès continue de s'opposer au regroupement des spécialités professionnelles en familles de métiers en classes de seconde, limitant le temps de formation professionnelle spécifique aux seules classes de première et terminale. Alors qu'ils ne sont souvent réservés qu'aux CFA d'entreprise, le Congrès revendique l'ouverture de nouveaux diplômes partout, meilleur moyen de redynamiser le lycée professionnel. Le Congrès demande le maintien et le déploiement des structures et de ses personnels des guéris établissements régionaux d'enseignement adaptés et des SECPA sections d'enseignement général et professionnel adaptés livrant à l'intégration des jeunes en grande difficulté dans le cadre d'une formation diplômante. Le Congrès dénonce l'inclusion en classe de collège des élèves inscrits en SECPA et qui de ce fait fragilisent ces structures et qui privent ces élèves de l'enseignement adapté auquel ils ont droit. Ils dénoncent l'exclusion des lycées, notamment LP, des réseaux d'éducation prioritaire et exigent leur retour dans le réseau. Le Congrès s'oppose aux fusions des ESM et des EPL aux écoles ordinaires au sein des cités scolaires. Le Congrès dénonce les tentatives de cités scolaires inclusives. Le Congrès dénonce également le pacte particulier aux LP, qui, à travers les expérimentations et les CNR locaux, s'attaquent au statut et au cadre national de l'école. Le Congrès demande l'annulation des fermetures de lycées et de filières prétendument non insérantes et exige le maintien d'une offre de formation sous statut scolaire différencié partout sur le territoire offrant une chance à chaque élève de suivre le parcours de son choix. Le Congrès réaffirme ses revendications, défense des lycées professionnels publics sous statut scolaire non au développement de l'apprentissage et à la mixité des parcours et des publics, maintien de toutes les formations, de toutes les sections et de tous les LP, maintien et ouverture de tous les postes nécessaires non à mainmise de l'entreprise dans nos établissements, défense du corps et du statut des PLP fonctionnaires d'État, abandon de la terminale en n'y sans aucun aménagement, retrait total des réformes Macron-Borne, grandes gens des expérimentations Breta avec la CGTFO. Le Congrès rappelle le rôle historique de l'éducation nationale dans la formation continue des salariés par le réseau des Grotta. Ils condamnent la réduction de leur nombre, la mutualisation de leurs moyens et la précarisation de leur personnel. Ils condamnent la loi Pénicaud qui permet de développer l'apprentissage par le biais de la nouvelle mission attribuée aux Grotta, devenus des marchands d'apprentissage. Ils condamnent les fusions Grotta-CFA et exigent le retour des Grotta à leur mission première de formation continue des adultes. Ils dénoncent le transfert des formations des Grotta vers les GIP qui préparent leur privatisation complète. Le Congrès s'oppose au financement des RD, postes d'assistants des DDF, qui seraient financés par les fonds de fonctionnement des Grotta. Contre la destruction et la disparition de l'AFPA, le Congrès considère que l'AFPA, ses salariés et les missions qui leur sont confiées sont fortement menacées. Il dénonce plusieurs points critiques. Le Congrès déclare que depuis de nombreuses années, l'AFPA subit des coupes drastiques dans l'activité de formation et donc dans ses effectifs. Ces situations est la conséquence directe de la loi de décentralisation de 2004, du transfert des budgets de la formation professionnelle aux régionaux et la mise en œuvre par ces derniers de procédures d'appel d'offres. L'AFPA a également dû supporter le coût financier du patrimoine suite au transfert de celui-ci, mais sans les budgets idoines. Par ailleurs estimé par les services de l'État entre 800 et 1200 millions d'euros. Pourtant l'AFPA, membre du service public de l'emploi, créé en 1949 pour former à un premier niveau de qualification dans le bâtiment et la métallurgie, s'est progressivement diversifié dans de nombreux secteurs professionnels. L'AFPA, initialement association paritaire, transformée en EPIC en 2017, a formé des millions de salariés et de demandeurs d'emploi dans le cadre de ses missions de service public. L'AFPA a été impactée de plein fouet par la décision de la Commission européenne de considérer la formation professionnelle des adultes comme un bien marchand. Le Congrès n'a jamais accepté et reste donc toujours opposé à ce que la formation professionnelle soit considérée comme un produit concurrentiel qui relève du secteur marchand. Aussi, le Congrès reste mobilisé pour préserver cet outil public unique de formation et de certification professionnelle, fort d'une compétence acquise au fil de 76 années d'expérience et qui est reconnue d'utilité sociale dans l'insertion, la formation des publics les plus éloignés de l'emploi. Reconnue depuis de nombreuses années, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, AFPA, permet à de nombreux citoyens, qu'ils soient salariés en reconversion professionnelle ou demandeurs d'emploi, de retrouver leur place dans le monde du travail avec une rémunération en référence au titre professionnel obtenu. Le Congrès constate des menaces sur l'avenir de l'AFPA, une situation financière catastrophique associée à une stratégie mal orientée vers le marché privé met en péril l'avenir de tous les centres AFPA. Cela aurait pour conséquence la perte de milliers d'emplois, la disparition d'un établissement public et la suppression des droits à l'insertion professionnelle, la possibilité de disparition de l'établissement, de la fermeture de centres et de la perte d'emplois. Des impacts sur l'offre de formation, la baisse des marchés publics sur de nombreuses régions impacte l'offre de formation, les formations qualifiantes dans des secteurs clés comme le tertiaire, l'industrie et le bâtiment, au profit de formations à bas coût qui ne répondent pas aux besoins réels des demandeurs d'emploi, une rentabilité et performance. Le Congrès dénonce l'idée persistante de soumettre l'AFPA à des critères stricts de rentabilité et de performance, alors que l'activité de l'AFPA doit être perçue comme un investissement social destiné à favoriser l'insertion professionnelle et à améliorer l'employabilité des personnes éloignées du marché du travail. Le Congrès alerte sur une dégradation aggravée et continuelle des conditions de travail dans l'ensemble des établissements de l'AFPA. Il constate que les moyens humains, matériels et organisationnels nécessaires à l'exercice des missions n'ont fait l'objet d'aucune amélioration, en violation des obligations légales de l'employeur. De plus, la suppression de 713 millions de crédits affectés à la formation professionnelle constitue l'un des points les plus sensibles du texte budgétaire. De plus, les financements du plan d'investissement dans les compétences PIC sont particulièrement touchés. Les sénateurs, ayant privilégié une réorientation vers les missions locales et les structures d'insertion par l'activité économique. Le Congrès dénonce le désengagement de l'État qui fragilise toujours un peu plus le service public de la formation professionnelle et tout particulièrement actuellement en période de crise sociale. Ce désengagement est encore une fois perçu comme une stratégie visant à mettre toujours plus en difficulté l'AFPA, voire sa disparition totale. Une politique de l'emploi en réduction, marquée par l'absence systématique de remplacement des départs et des absences, ce qui accroît la charge de travail et impose une polyvalence excessive, souvent éloignée des césures de métier. Une détérioration inquiétante de la santé physique et mentale des salariés, attestée année après année dans les bilans sociaux, démissions, licenciements pour inaptitude ou insuffisance professionnelle, rupture conventionnelle, absentéisme lié au surmenage ou à la perte de sens. Malgré ce constat, la direction générale continue de poursuivre une stratégie de réduction de la masse salariale sans prise en compte de la souffrance des salariés, sans aucune mesure d'accompagnement, ce qui amène certains salariés à commettre l'irréparable. La direction générale poursuit une stratégie de réduction de la masse salariale sans mesure d'accompagnement. Un taux nouveau en hausse, signe d'un profond malaise lié au manque de reconnaissance, aux difficultés d'agir et à l'effritement du sens du travail. Une pression croissante liée à des logiques de productivité et de rentabilité, l'accueil inconditionnel mis en œuvre sans moyens, la gestion de groupes multiples avec des financeurs différents, ainsi qu'un suivi administratif alourdi. Certains subissent la double peine, absence ou baisse d'activité, repositionnement imposé sur d'autres dispositifs et suppression de semaines d'enseignement. La mobilité temporaire dite volontaire relève en réalité de contraintes. Le Congrès appelle à une action immédiate pour rétablir des conditions de travail conformes aux exigences légales, protéger la santé et la sécurité des salariés et garantir la continuité des missions de service public de l'AFPA. Le Congrès exige que l'État réaffirme pleinement dans son rôle et assume ses responsabilités quand les conseils régionaux sont défaillants en tant qu'acteur central de la formation professionnelle qualifiante et de fait soutenir l'AFPA, garantissant sa fonction d'outil public de formation qualifiante et de réinsertion professionnelle accessible par tous et partout sur le territoire. Des moyens financiers, il est impératif de mettre en place des financements suffisants pour établir et développer une offre de formation stable et accessible, particulièrement pour les publics les plus éloignés de l'emploi. La pérennisation de l'AFPA. Le Congrès exige que l'AFPA voie son rôle consolidé en tant qu'acteur clé de l'utilité sociale, contribuant à la cohésion et à la justice sociale, dans le respect de sa mission d'intérêt général. Le Congrès apporte tout son appui à la section fédérale nationale Force ouvrière de la formation professionnelle des adultes SFNFO-FPA dans les actions qu'elle mène pour défendre l'AFPA comme un organisme public de formation professionnelle au service de tous les citoyens. Le Congrès soutient la SFNFO-FPA, ses militants et adhérents qui agissent continuellement pour la sauvegarde et le développement de l'AFPA et des missions, ou particulièrement de services publics, qui lui sont confiés. Le Congrès reste aux côtés de la SFNFO-FPA pour lutter contre tous les licenciements et toutes les fermetures de centres. Le Congrès appuie toutes les actions de la SFNFO-FPA pour favoriser toutes les embauches sous contrat CDI, pour l'augmentation générale des salaires et la satisfaction de toutes ces revendications. En conclusion, le Congrès appelle à un retour du pilotage de la compétence formation professionnelle par l'État et un engagement ferme de celui-ci pour soutenir l'AFPA dans sa mission essentielle de garantir une offre de formation professionnelle qualifiante au statut public, accessible à tous et partout sur l'ensemble du territoire. Huit Romains. Défense des diplômes baccalauréat, PORCOCEP, mon master, pour l'AFMEC FPFO, l'accès de tout jeune à une formation qualifiante débouchant sur des diplômes nationaux doit être établi. PORCOCEP empêche depuis 2018 environ 100 000 bacheliers chaque année d'accéder à la filière LSTER de leur choix dans l'établissement de leur choix, remettant en cours le baccalauréat comme premier grade universitaire. La plateforme Mon Master empêche de même depuis 2023 environ 50 000 étudiants par an détenteurs d'une licence d'accéder à un master dans leur champ disciplinaire de licence. Le Congrès revendique le rétablissement du baccalauréat comme examen national, terminal, disciplinaire, ponctuel et anonyme, inscrit dans les conventions collectives et les statuts. L'abrogation de la loi ORE et de PORCOCEP, le rétablissement du bac national comme premier grade universitaire ouvrant droit à l'inscription dans la filière universitaire de son choix, le retrait de l'arrêté du 9 mars 2023 créant mon master. Contre elle, l'approche par compétences, la professionnalisation et le tout apprentissage dans l'enseignement supérieur, l'approche par compétences démantèle les diplômés disciplinaires et est objectivement dirigée contre l'acquisition des connaissances disciplinaires. L'apprentissage et l'alternance, qui se sont développés de manière exponentielle depuis la loi Pénicaud de 2018, sont principalement des modalités permettant d'économiser des heures de cours, de fournir une main-d'œuvre quasi gratuite aux employeurs, de manière annexe une ressource propre pour les établissements. Ces évolutions imposées aboutissent à la déqualification des étudiants par le remplacement des diplômes par des certifications, comme le demande le MEDEF, et par la prévalence des attentes étroites et éphémères des employeurs sur les exigences des universitaires. Le Congrès revendique l'arrêt de toutes les formations en apprentissage ou alternance dans toutes les formations fondamentales techniques de l'enseignement supérieur public, le rétablissement de la conception de l'ensemble des diplômes et des modalités de contrôle des connaissances par les universitaires eux-mêmes, sur la base de l'enseignement de connaissances disciplinaires, la reconnaissance de droit de tous les diplômes universitaires au RNCP. But Bachelor Universitaire de Technologie. Le but en 3 ans a été mis en place en 2019 contre l'avis des enseignants et de très nombreux départements du. Il a fait disparaître le DUT en 2 ans, diplôme qualifiant reconnu dans les conventions collectives. Sa mise en œuvre a en outre énormément accru la charge de travail des collègues des UT, suivi des stages, des alternances, des projets, coordination et du EI avec les professionnels externes dont la présence est imposée, le Congrès revendique. L'abandon de tous les quotas en entrée et sortie du but, le retour à des enseignements disciplinaires définis et évalués par les pairs dans les seuls CPN, la reconnaissance de la qualification des diplômés but dans les conventions collectives, le maintien des UT et de l'évaluation de leur pilotage par la CNU, défense du monopole de la collation des grades et de l'université publique et laïque. Le Congrès rappelle sa revendication de rétablissement du monopole de la collation des grades inscrit dans la loi Ferry de 1880. Il rappelle ses revendications d'abandon de toutes les procédures qui permettent aux établissements privés d'enseignement supérieur de délivrer des grades, voire des diplômes universitaires, procédures dont la mise en œuvre occupe les 3/4 des séances du CNESE. La moitié de l'augmentation des effectifs étudiants des 10 dernières années est allée vers l'enseignement supérieur privé, qui regroupe désormais 25% des effectifs post-bac, les plateformes PORCOCEP et Mon Master servant de support publicitaire. Le projet de loi modernisation et régulation de l'enseignement supérieur vise maintenant à placer sur un pied de stricte égalité les établissements privés, dont beaucoup sont de plus confessionnels, sur le même plan que les établissements publics, avec une contractualisation des 2 types d'établissements. Le Congrès revendique le retrait de ce projet de loi. 9. Roumain. Laïcité de l'État et de l'École. Le congrès de la FNEC, FPFO, inscrit ses mandats dans la résolution du congrès de la CGTFO, adoptée le 3 juin 2022, attachée à l'école laïque et républicaine, fondée sur la transmission de connaissances. Le congrès exige le retrait de toutes les contre-réformes de Blanquer et de ses prédécesseurs, qui ont conduit à la remise en cause de la laïcité, à la territorialisation et à l'aggravation des inégalités. Le Congrès réaffirme également la place de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État que le gouvernement entend réviser au nom de la lutte contre le séparatisme. Pour le Congrès, l'enseignement dû aux élèves ne dépend pas d'une majorité politique mais du savoir. C'est pourquoi le Congrès exige le respect du statut qui protège les personnels et donc la conscience en formation des élèves de toute pression extérieure. Le Congrès rappelle la revendication constante des partisans de la laïcité et du serment de Vincennes de 1960, les fonds publics doivent être réservés à la seule école publique. En ce sens, le Congrès rappelle la position constante de la CGTFO d'exigence de l'abrogation de la loi de Brégermeur de 1959 et toutes les lois anti-laïques. Pour le Congrès, le scandale Bitteram ne doit pas conduire à un simple aménagement de la loi de Bré. Refusant tout processus d'unification publique-privée, le Congrès considère que la solution ne peut résider dans le fait d'imposer les mêmes obligations dans le privé et dans le public. Pour le Congrès, on ne peut défendre la laïcité de l'école sans demander l'abrogation des contre-réformes alignant le fonctionnement de l'école publique sur le modèle de l'école privée, projet éducatif plus apprend que l'enseignement lui-même, autonomie des établissements sous pression de forces économiques et politiques locales présentes dans les conseils d'administration, recrutement de contractuels à la place de fonctionnaires d'État, etc. Le Congrès demande le retrait du projet de loi dit de modernisation et de régulation de l'enseignement supérieur, qui autorise les établissements privés à conférer les grades universitaires à travers des procédures d'agrément ou de partenariat. Le monopole de la collation des grades, loi Ferry de 1880, doit être intégralement respecté. Le Congrès condamne l'intégration de formations privées dans Parcoursup et Mon Master. Plus généralement, il demande l'abandon de ces plateformes. Avec la CGTFO, le Congrès exige le retrait de la loi séparatisme. Cette loi liberticide est contraire à la reconnaissance de la liberté de conscience définie par l'article 1 de la loi de 1905, ainsi qu'à la liberté d'association. En particulier, le Congrès dénonce l'instrumentalisation de la laïcité pour imposer une idéologie d'État visant à stigmatiser les élèves supposés musulmans. Il s'oppose à la culpabilisation des personnels à travers les équipes valeurs de la République et les cellules d'appui pédagogique. Le Congrès revendique le retrait des mesures prises par les ministres qui visent à un traitement différencié de l'application de la loi de 1905 suivant les territoires. Le Congrès considère que le respect de la laïcité doit être avant tout garanti par l'État. If, on a l'embrigadement de la jeunesse pour Macron, l'école devrait devenir un lieu d'embrigadement et de militarisation de la jeunesse. D'ores et déjà, les classes défense et sécurité globale, créées en 2005, se multiplient sur tout le territoire, allant jusqu'à s'implanter dans l'enseignement primaire. Le ministère des Armées en comptait 958 en France métropolitaine au premier trimestre 2025, auxquelles s'ajoutent 100 classes défense en Outre-mer et 6 à l'étranger réseau AF. Dans le même temps, les personnels sont de plus en plus appelés à participer à des formations organisées par les trinômes académiques associant les autorités de l'éducation nationale et les autorités militaires territoriales et portant sur elles éducation à la défense. Ces dispositions s'articulent enfin avec le projet présidentiel d'un service militaire volontaire rénové visant à recruter 50 000 jeunes de 18 ans dès 2035. Le Congrès se félicite des prises de position syndicales syndicat UD condamnant les propos du général Mandon, envoyé par le président Macron pour préparer la population aux économies de guerre et accepter de perdre nos enfants. Il affirme son opposition à la propagande guerrière et à l'objectif avoué de se préparer à envoyer nos élèves, nos étudiants se faire massacrer. Il revendique l'abandon de tout dispositif de militarisation de l'école et d'embrigadement de la jeunesse. Il affirme son opposition à l'instrumentalisation des personnels fonctionnaires d'État pour être les relais de cette tentative de militarisation des élèves. Il appelle à multiplier ses prises de position et à réunir les personnels et les parents d'élèves qui refusent cette marche à la guerre. 11 Romains. Pour la défense de l'enseignement spécialisé, le Congrès refuse l'orientation ministérielle d'inclusion scolaire systématique, forcée et maltraitante, inscrite dans la loi de février 2005 sur le handicap, consacrée par la loi de refondation et confirmée par la loi Blanquet qui a notamment instauré les comités de suivi de l'école inclusive qui sont chargés d'ajuster la feuille de route de démantèlement de ce qui reste de l'enseignement et des structures spécialisées et adaptées à tous les niveaux national et départemental. Le Congrès revendique l'abrogation de toutes ces lois. Le Congrès réaffirme le droit des élèves à bénéficier d'un enseignement adapté en milieu ordinaire uniquement lorsque c'est possible et en établissement spécialisé lorsque c'est nécessaire à proximité de leur domicile. Le Congrès revendique le retour des classes relevant de l'adaptation UPI, qu'il impliquant une inclusion qualitative, non systématique, relevant uniquement de l'expertise et de la liberté pédagogique de l'enseignant ainsi que le maintien des RISD. Le Congrès revendique la mise à disposition de moyens et de professionnels qualifiés selon le degré et la nature du handicap dans les structures médico-sociales ITEP, CESAD, IM, IMPRO. De par l'effet délétère de l'inclusion et du rejet du handicap lorsqu'il est forcé classe 6e intégré aux établissements, la destruction de l'enseignement spécialisé entraîne inévitablement la maltraitance des élèves et des enseignants et piétine le droit des familles à une scolarisation adaptée aux besoins de leur enfant. Le Congrès revendique aussi tous les moyens humains et matériels nécessaires pour la prise en charge des élèves en situation de handicap qui ne relèvent pas de ces dispositifs ou de ESSM. Le Congrès refuse la remise en cause des formations spécialisées en lui substituant un module de formation initiale pour tous les personnels. Le Congrès revendique le retour à des formations par option A, B, C, D, E, F, G telles qu'elles existaient auparavant, le rétablissement des heures de formation supprimées et l'augmentation des départs en formation à hauteur des besoins. Le rapport RISE de janvier 2021 confirme cette logique appliquée aux membres des réseaux d'aide. Le Congrès réaffirme son exigence de RISE complet, partout, à hauteur des besoins. Le Congrès refuse la mise sous tutelle des psys, l'UN et la remise en cause de leur liberté de recourir aux méthodes et au matériel de leur choix qui s'opère au travers de l'arrêté du 10 mars 2021. Le Congrès refuse la mise en place de conseillers techniques psy, l'UN. Le Congrès réaffirme son exigence du maintien des psys, l'UN au sein de l'éducation nationale. Selon le ministère, 24 000 élèves ne sont pas pris en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux IME, IMPRO, IM, ITEP faute de place. Dans le cadre de l'acte 2 de l'école inclusive, le gouvernement a publié en juillet 2024 un décret visant à généraliser l'externalisation des établissements sociaux et médico-sociaux dans les écoles ou établissements ordinaires. Le gouvernement veut accélérer le démantèlement de l'enseignement spécialisé. Le Congrès exige l'abrogation de ce décret ainsi que le maintien et le développement des établissements sociaux et médico-sociaux. Le Congrès exige l'abandon des pôles inclusifs d'accompagnement localisés PIAL qui engendrent une mutualisation et flexibilisation des personnels et se traduisent par une baisse de moyens et des conditions de travail dégradées. Le gouvernement a mis en place les pôles d'appui à la scolarité PA et veut les généraliser à tous les départements pour réduire l'accompagnement des élèves par les IH en renforçant la mutualisation et pour que le ministère prenne la main sur les prescriptions et les notifications des MDPH en éloignant les élèves des soins auxquels ils ont droit. D'autre part, le recours pour les PA à un duo composé d'un enseignant spécialisé et d'un éducateur spécialisé vit à coup que les enseignants de milieu ordinaire au lieu de prendre vraiment en charge les élèves qui relèvent de classes ou structures spécialisées ou adaptées. Cela a également pour effet de vider les classes spécialisées et les ESSM des personnels formés nécessaires à leur fonctionnement, participant ainsi à leur démantèlement. Le Congrès revendique l'abandon des PA. Le 5 septembre 2024 est paru au BO un texte intitulé « Déploiement de l'autorégulation en milieu scolaire ». Il s'agit de généraliser et de cadrer davantage les dispositifs d'autorégulation DAR expérimentés dans certains départements. Le Congrès exige le retrait de ces dispositifs qui permettent d'inclure des élèves avec des troubles du neurodéveloppement en classe ordinaire au lieu de créer les places nécessaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Le Congrès réaffirme que la pédagogie ne peut se substituer aux soins. Le Congrès exige du ministère de l'Éducation nationale la reconnaissance et la prise en compte officielle de la situation des élèves handicapés sans place en ESSM appelés « élèves appelés en attente d'admission en ESSM ». Une pétition FNEC-FPFO, FNASFO, Action sociale, FSPSFO, Services publics et de santé et FAGE, Administration générale de l'État a été rédigé pour exiger la défense de l'enseignement spécialisé et adapté, le maintien et la création des places dans les établissements sociaux et médico-sociaux, le retrait du décret visant à généraliser l'externalisation des ESNE, le recrutement d'enseignants spécialisés et d'ISH, un statut de fonctionnaire et un vrai salaire pour les ISH, le retrait de l'acte 2 de l'école inclusive, l'abandon des PAS et des PIAL. La reconnaissance, sécurisation et revalorisation de tous les professionnels en lien avec la scolarisation des élèves en situation de handicap, enseignants, éducateurs spécialisés, personnel médico-social, interprètes et interfaces en LSF, codeurs en LFPC sans oublier les missions administratives et techniques support. Le Congrès revendique le recrutement de médecins scolaires à hauteur des besoins, notamment pour favoriser le dépistage précoce chez les élèves et assurer ainsi une prise en charge adaptée. Le Congrès invite les syndicats de la FNEC FPFO à continuer de porter ses revendications auprès des personnels, à les réunir et à prendre toutes les initiatives nécessaires, y compris par l'action commune avec les autres organisations syndicales et les parents d'élèves, pour faire aboutir ces revendications. Le Congrès donne mandat à la CF pour organiser dans les prochaines semaines, en lien avec la Confédération, les unions départementales et les syndicats forces ouvrières des secteurs du social et du médico-social, une nouvelle initiative nationale sur la base de ces revendications, si possible dans l'action commune, par la grève, avec une montée nationale à Paris. Accueil des élèves allophones, le Congrès refuse la logique d'inclusion systématique et forcée qui concerne aussi les élèves allophones. Nous revendiquons le retour aux classes d'accueil et classes d'initiation garantissant 26 slash d'enseignement par semaine pendant 2 ans. L'inclusion ne doit dépendre que de l'expertise pédagogique de l'enseignant. 12 Romains. Distanciel et télétravail distanciel, les ministères ont utilisé la gestion de la crise Covid pour tenter d'imposer des modes d'enseignement et de formation des personnels dont ils encourageaient la généralisation depuis longtemps, ce que l'on a fini par appeler le distanciel. Le Congrès dénonce cette pratique comme totalement contradictoire au statut des enseignants. Le Congrès revendique l'application de l'arrêté ministériel du 6 avril 2018 qui exclut l'enseignement des champs du télétravail et le maintien de la totalité de l'enseignement en présence des élèves et étudiants, qui doit demeurer la base de la comptabilisation des obligations de service des enseignants, et condamne les pratiques résiduelles de distanciel ou leur résurgence à l'occasion des conflits sociaux, notamment dans les universités. Télétravail, la FNEC FPFO n'a jamais été demandeuse du télétravail. Ces syndicats continueront de défendre les droits de tous les personnels, qu'ils demandent le télétravail ou qu'ils soient confrontés à des tentatives de se le voir imposer contre leur gré. Pour le Congrès, le constat est net, les modalités de travail à distance imposées durant les confinements liés au Covid ont largement inspiré la nouvelle réglementation du télétravail, dégradation du service rendu aux usagers, exigence accrue de productivité pour les télétravailleurs, opposition des personnels entre eux par un report de charges sur les personnels physiquement présents et inégalité de traitement. Le Congrès s'oppose sans réserve au recours au télétravail en lieu et place des aménagements nécessaires pour les collègues porteurs de handicap. Le Congrès s'oppose également au télétravail durant les périodes de congé maladie ou maternité. Le Congrès considère que le télétravail doit être une modalité exceptionnelle d'organisation du travail. Ceci permet de défendre les conditions de travail des personnels, mais aussi les postes sans accueil des usagers, il n'y a pas de service public. Vider les services de leurs agents, c'est un risque le jour de nouvelles suppressions de postes. Au terme de l'accord cadre dans la fonction publique, il peut être imposé dans des circonstances exceptionnelles qui de plus ne sont pas énoncées de manière limitative et il est utilisé en outre pour contourner les mobilisations. Ce n'est pas un choix pour les collègues, c'est un outil de flexibilité pour les directions. Le Congrès dénonce le travail à distance proposé au personnel administratif affecté en EPL, en dehors de tout cadre réglementaire. Pour toutes ces raisons, le Congrès se félicite que la FNEC FPFO ait refusé de signer les accords cadre télétravail dans les ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En cas de télétravail, le Congrès rappelle ses exigences, l'application du décret N-2016-151 du 11 février 2016 qui prévoit le volontariat sans exception et le paiement de tous les frais, respect du volontariat et réversibilité aucune grève ou mobilisation, quelle que soit la catégorie de salariés, étudiants ou lycéens à l'initiative de ces grèves ou mobilisations, ne peut être invoquée comme une motivation pour imposer le télétravail. Fourniture de tout le matériel nécessaire et prise en charge de tous les frais par l'employeur, égalité d'accès, y compris pour les personnels administratifs affectés en EPL, maintien de tous les postes de travail, rejet des flex-office, respect des horaires et des droits à congé. Très romain. Enseignement supérieur et recherche défense TEC. Le Congrès revendique le retour à une carte nationale des classes préparatoires avec le maintien des TEC dites de proximité permettant de couvrir l'ensemble du territoire. Il n'est pas acceptable que les rectorats prétendent fermer les sections dont les effectifs ne tiennent pas 48 étudiants. Contre l'augmentation des droits d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur public, le Congrès dénonce les contournements de la réglementation nationale des droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur avec des diplômes d'établissement ou inter-établissements à frais dérogatoires. Le Congrès dénonce les préconisations du récent rapport IGF-IGOR de multiplication par 15 des droits d'inscription, plus de 2800 euros en licence, près de 3900 euros en master, contre 250 et 350 euros aujourd'hui. Il s'oppose aux augmentations des droits d'inscription envisagées dans des établissements publics concernant les formations délivrant le titre d'ingénieur, de licence, de master et doctorat. Le Congrès revendique le respect de la gratuité constitutionnelle de l'enseignement, valable également dans le supérieur. Aucune augmentation des droits d'inscription définie par la réglementation nationale, y compris pour les formations d'ingénieurs publics. Retrait des mesures multipliant par 15 les droits d'inscription des étudiants étrangers hors UE et de toutes les préconisations nationales ou politiques d'établissement pour appliquer cette augmentation aux étudiants originaires de pays de l'UE. Défense des organismes de recherche, des agences et de leur personnel, le Congrès dénonce l'abandon dans lequel sont laissés les organismes de recherche, le CNRS au premier chef. Austérité budgétaire, la poursuite de la recherche sur projet, le projet de Calab, 25% des laboratoires destinés à recevoir 90% des crédits de recherche, la volonté de les unités de recherche du CNRS sous la tutelle d'université chef de file amplifie la déréliction et l'appauvrissement de la recherche, dont les résultats reculant dans les classements internationaux, en dépit des efforts acharnés des personnels pour la maintenir à niveau. Le Congrès s'oppose au regroupement d'opérateurs ou de services indépendants IPEF, IFREME, APSIN, AMU. Le Congrès revendique l'abandon définitif des CALAB, l'abandon de tous les projets de fusion d'opérateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, le maintien des budgets et des rôles respectifs des organismes de recherche nationaux d'un côté, des universités de l'autre, dont les personnels sous statut se retrouvent et travaillent librement ensemble dans des unités mixtes de recherche. Autonomie, budget, poste. Les budgets de la mission interministérielle de l'enseignement supérieur et de la recherche ont été énormément amputés ces dernières années, 900 millions d'euros en 2024, 500 millions d'euros en 2025, et les budgets des programmes dépendant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ont reculé en haut constant et parfois même courant, ce qui provoque une mise en difficulté de tous les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. Un grand nombre d'universités sont en déficit et toutes le seront inévitablement selon France Université, représentation des présidents et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, entre autres en raison du report partiel ou total des charges que sont la PSC, le CAS pension, le GVT, les mesures du protocole d'accord sur les carrières et les rémunérations issues de la LPR que l'FOLESR a refusé de signer et qui a été signée par la CFDT et l'INSA. Cette situation est la conséquence de l'autonomie budgétaire des universités 2007-2009, renforcée par la loi ESR Fioraso 2013 et la loi LPR Vidal 2020. Le déploiement progressif de CON à 100% contrat d'objectifs, de moyens et de performance évacuerait toute garantie d'une dotation budgétaire par l'État minimale, même si insuffisante, y compris en termes de masse salariale. Le Congrès réitère ses revendications d'abrogation des lois Pécresse et LRU d'autonomie de l'université, Fioraso ESR de 2013 et Vidal LPR de 2020 et le retrait des procédures d'allocation budgétaire dites CON à 100%. Le Congrès revendique des budgets à la hauteur des besoins pour financer les postes statutaires d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, d'ITRES et de BIATS nécessaires à l'accueil des effectifs étudiants en constante augmentation afin d'accomplir l'ensemble des missions de service public, tant en enseignement qu'en recherche ou pour l'accueil dans les CROU. Le Congrès revendique le dégel du plafond d'emploi des CROU. Le Congrès exige la restitution des 1,4 milliard d'euros volés à l'ESO public depuis 2024 et s'oppose au budget 2026 qui prévoit d'or et déjà 362 millions d'euros de coupes, ce qui équivaut à la suppression de plus de 5000 postes. Contractuel de LNC Némine supérieure et PO des CROU, l'austérité budgétaire a entraîné une croissance accélérée des recrutements de contractuels, principalement des CDD de 1 à 6 ans, mais aussi des CDI, sur la base du décret 86-83, contractuel dont les rémunérations demeurent pour 99% d'entre eux très inférieures à celles des titulaires. Le Congrès revendique la titularisation de l'ensemble des contractuels sur poste. Dans l'optique de leur titularisation, le Congrès revendique pour les contractuels de l'enseignement supérieur, de la recherche et des CROU, la CDIsation plus tard à la fin de la première année de contrat, des temps de travail et obligations de service, rémunération de base, primes et avancement d'échéance identiques à ceux des titulaires. Dans les CROU, le Congrès revendique l'alignement des grilles et des primes des PO sur celles des IT. 14 Romain. CINED, le Congrès dénonce la programmation de la fusion du CINED avec d'autres opérateurs dans le cadre de la réorganisation des opérateurs de l'État qui a commencé par la suppression de l'Institut des récifs coralliens du Pacifique IRC par un décret le 25 juillet, l'absorption de l'Institut Paul-Émile Victor IPEV par l'IFREME en 2026. Le Congrès dénonce la politique d'austérité du gouvernement qui fixe une baisse de subventions de près de 9 millions d'euros, soit 10 millions d'euros en dessous du minimum nécessaire pour assurer sa mission de service public. Il dénonce l'adoption par le Sénat d'un amendement du PLF privant le CINED de 15 millions d'euros supplémentaires sur le budget 2026. Le Congrès dénonce la transformation du CINED en académie numérique chargée d'assurer, pour le compte de l'État, le service public du numérique éducatif. En effet, nous sommes opposés à ce que le CINED soit le supplétif numérique chargé de pallier les dysfonctionnements dans l'éducation nationale et dont les ministres successifs portent l'entière responsabilité. Nous sommes en particulier opposés à la généralisation de dispositifs mis en place tels que remplacements de courte durée qui dédouanent le ministère des remplacements d'enseignants absents. Le Congrès dénonce enfin la remise en cause des droits statutaires pour tous les personnels titulaires et précaires, notamment via le nouveau pouvoir disciplinaire confié aux directeurs du CINED. Le Congrès condamne les conditions de travail et de salaire faites au personnel et décide de poursuivre ce combat dans toutes les instances de l'établissement avec la poursuite d'une large campagne d'information. Le Congrès défend la diminution de la charge de travail et la prise en compte des difficultés spécifiques des enseignants au poste adapté, respect du temps de travail, respect des allègements de service, prise en compte des différents types de handicap avec une réelle progression de carrière. Les enseignants en poste adapté n'ont pas à faire les frais de PPCR et doivent tout faire en région terminale avant le départ en retraite. La FNEC-FPFU est devenue aux dernières élections professionnelles de 2023 la deuxième organisation syndicale représentative au CINED en devançant la FSU. Le Congrès considère que l'EFO doit poursuivre son implantation en lien avec l'engagement des syndicats nationaux et de la fédération dans ce secteur, afin de renforcer sa représentativité dans toutes les instances de l'établissement. Et agir pour le maintien du CINED comme établissement de service public et de promotion sociale contre sa filialisation horizontalement est un enjeu de promotion du service public de l'éducation nationale. Au quatrième trimestre de la rentrée scolaire 2026 auront lieu de nouvelles élections vote par correspondance pour le SA, le CSEP, le CSA et toutes les F3SCT. Le Congrès invite toutes les structures FNEC, FPFO et tous les syndicats nationaux à prendre toute leur place dans cette nouvelle élection dont les axes majeurs se porteront sur la création de postes nécessaires au bon fonctionnement du CINED, la poursuite des négociations sur les conditions de travail des enseignants nommés, augmentation des salaires de tous les agents contractuels et titulaires, la titularisation des agents contractuels qui le souhaitent. Force ouvrière se bat et continuera de le faire dans toutes les instances du CINED pour défendre le CINED opérateur public de l'État, ainsi que les droits, les intérêts et les conditions de travail de tous les personnels qui y travaillent. 15 Romain. AF, le congrès de la FNEC-FPFO constate que le réseau AF est aujourd'hui menacé par la privatisation croissante, le développement des labels au détriment du service public, le désengagement financier de l'État et l'explosion du recours aux contrats locaux précaires. La toute nouvelle baisse de la subvention de l'État, 25 millions d'euros de budget en moins, vient exacerber les difficultés financières. Face à la dégradation des conditions de travail, à la perte continue de pouvoir d'achat, à la limitation du détachement à 6 ans, aux suppressions de postes et à l'instabilité professionnelle imposée au personnel, le Congrès réaffirme sa détermination à défendre un véritable service public d'État à l'étranger. Le Congrès revendique l'augmentation massive du budget de l'AF afin de garantir l'égalité du droit à l'instruction, le renforcement du service public et l'augmentation du nombre d'aides. La revalorisation immédiate du pouvoir d'achat des personnels, notamment par l'augmentation du point d'indice et la revalorisation des indemnités ISVL et ICUL, qui doivent être indexées sur la réalité du coût de la vie, du logement, du transport, de la santé, de l'attractivité des pays et du différentiel de pouvoir d'achat. la prise en charge intégrale de la scolarité des enfants, des personnels, ainsi que la création d'une prestation familiale mensuelle par enfant et la prise en compte réelle des situations de handicap. Le Congrès exige que le ministère de l'Éducation nationale assume la part patronale des pensions civiles des détachés, à l'instar de ce qu'il fait déjà pour la mission laïque française et les établissements partenaires. Alors que cette charge absorbe près de 10% du budget de l'AF, son transfert ne représenterait qu'une augmentation minime d'environ 0,15% du budget de l'Éducation nationale. L'arrêt des suppressions de postes dans le réseau AF et l'augmentation immédiate du nombre de postes de détachés. La fin du bornage à 6 ans pour les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration. La suppression de la durée minimale d'expérience professionnelle en France pour les candidatures au détachement. La fin de la précarité pour les personnels IGE du réseau. L'agence doit garantir un cadre d'emploi harmonisé, une rémunération décente et l'accès à une formation qualifiante, la prise en charge financière intégrale des IGE par l'AF pour garantir une rémunération décente, la garantie de conditions de retraite dignes, remise en cause par les carrières hachées et les effets de la réforme Macron-Borne. Le rétablissement et la généralisation de la prise en charge des voyages de congés annuels pour l'agent et sa famille, quelle que soit la zone géographique, au nom de la continuité du lien avec le service public national. Le Congrès demande la transparence totale des procédures de recrutement, notamment dans les CCPL, avec des critères publics, équitables et contrôlables. La réorganisation complète des instituts régionaux de formation, afin qu'ils répondent aux besoins réels des personnels, et non à la substitution de détachés par des personnels de droit local. Une protection institutionnelle sans faille pour les personnels mettant en œuvre le programme de l'Éducation nationale en assurant la sécurité juridique et physique des agents face aux pressions politiques ou religieuses locales. Le Congrès défend un réseau à fonder sur les garanties statutaires, la stabilité des personnels, la qualité des enseignements et un pilotage national cohérent au service des élèves et des missions de l'Éducation nationale. Le Congrès affirme sa détermination à mener toutes les actions nécessaires pour obtenir ses revendications et défendre le service public d'éducation à l'étranger. C'est Romain. Culture, le syndicat national des affaires culturelles Force ouvrière SNACFO réaffirme son attachement et son soutien aux valeurs et revendications de sa fédération la FNEC-FPFO. La culture est le plus modeste des ministères, avec des effectifs et un budget en baisse constante. Le SNACFO revendique un vaste plan d'embauche statutaire et les moyens financiers nécessaires pour assurer la sécurité des personnels, des publics et des UF. Les braquages au musée Adrien Duboucher de Limoges et au Louvre ont démontré qu'il s'agit d'une urgence. Le SNACFO exige la création d'un véritable statut pour la médiation culturelle. La disparité de traitement dans les différents établissements CMN, Centre Georges Pompidou, Grand Palais RMN a pour conséquence la précarisation des métiers, avec le risque de leur disparition. FO considère la médiation culturelle indispensable pour favoriser l'accès des publics à l'art à travers les collections des musées et des monuments. Elle doit être reconnue comme mission de service public et, à ce titre, assumée pleinement par le ministère de la Culture. FO revendique la création d'un corps d'État et d'un statut unique de fonctionnaire pour l'ensemble des personnels qui le souhaitent. FO exige le retour à une gestion des personnels des directions régionales des affaires culturelles DRAC assurée par le ministère de la Culture, seule garante de l'égalité de traitement et d'un retour à des conditions de travail normales sur l'ensemble du territoire. Face à la dégradation continue des conditions d'enseignement moyen et plafond d'emploi constant, le SNACFO soutient toutes les actions, y compris la grève reconductible, afin d'obtenir les moyens nécessaires matériels et en personnel pour l'accomplissement des missions de rendement du service public dévolues aux écoles nationales supérieures d'architecture ENSA et afin de lutter contre la privatisation de l'enseignement qui se met en place progressivement. Le ministère de la Culture doit impérativement budgéter des mesures d'urgence afin de mettre fin à la souffrance des étudiants et de tous les personnels. Pour la période de fermeture de Beaubourg pour travaux, le syndicat des personnels du centre Pompidou SPCPFO confirme ses revendications de maintenir l'activité de tous les services, le plafond d'emploi service par service de 2021 jusqu'à la réouverture du centre Pompidou, à minima la subvention avant, pendant et après les travaux, les statuts de l'établissement et du personnel, les salaires, rémunérations et réacquis sociaux et leur évolution. Les revendications portées par FO et CAM, transparence et l'harmonisation sur la politique salariale, en particulier la reconnaissance des heures supplémentaires trop souvent dissimulées ou compensées de manière inégale selon les départements. Mise en place d'un accord égalité professionnelle QVCT, incluant la prévention des RPS et une politique réellement active d'égalité femmes-hommes. Garantie d'un dialogue social effectif avec une direction qui respecte les délais de communication des documents préparatoires et qui ne se contente pas de PV de désaccord. Maintien de la visibilité syndicale, opposition au projet de déplacement du local CSE section syndicale vers un lieu excentré. Suivi des conditions de travail liées aux travaux en cours à l'IRCAM, en particulier la salle de concert ESPRO, avec l'appui de la CRAMIF et de l'inspection du travail, et les travaux à venir, notamment avec l'autonomisation en vue suite à la fermeture du centre Pompidou pour travaux. La section SNECFO des châteaux et domaines de Versailles EPV revendique l'embauche pérenne d'un médecin de prévention afin de garantir cette mission dans l'établissement, l'ouverture d'une négociation sur la qualité de vie, conditions de travail QVCT, de véritables moyens pour les représentants du personnel et les instances, celles dédiées, matériel informatique, temps de délégation, l'élaboration d'une charte du manager, la reconnaissance du personnel de nuit, gestion de carrière, promotion des chefs d'équipe en catégorie B, deux titres, restaurant par nuit et une création de poste, un véritable déroulement de carrière pour les fonctionnaires de l'EP, un plan de résorption de la précarité par l'organisation d'un recrutement sans concours, des articles SI et des vacataires saisonniers à perpétuité, la reprise intégrale de l'ancienneté pour les vacataires lors de leur embauche en CDI, un chantier ambitieux de restauration des logements du parc logement de l'EP et l'augmentation du nombre de logements. La section SNACAFO du Grand Palais Hermène et ses adhérents revendiquent l'augmentation du coefficient de chaque salarié en fonction de son ancienneté de plus 20 points à plus 50 points, l'augmentation de la prime de dimanche portée à 100 et la majoration des heures dominicales portée à 100% pour les salariés recrutés pour travailler principalement le dimanche, l'augmentation des effectifs, la révision régulière de la grille salariale pour une meilleure reconnaissance des compétences et de l'ancienneté. Le Congrès engage les structures de la FNEC-FPFO à continuer à être aux côtés du SNACFO et de ses sections et syndicats afin de contribuer à faire aboutir leurs revendications et à développer la syndicalisation au sein du ministère de la Culture. 17 Romains. Mesures spécifiques au département et au territoire ultramarin Mayotte. 10 mois après le passage du cyclone Chido, 30 établissements restent fermés et le système de rotation scolaire épuise enseignants comme élèves. Malgré les engagements pris loi d'urgence votés en février 2025, la reconstruction avance au ralenti, approvisionnement en eau potable défaillant, climat d'insécurité et blocage récurrent des rémunérations. Le Congrès revendique la libération immédiate des crédits pour la reconstruction en bâtiments durables, la sécurisation effective des établissements publics, locaux d'enseignement et versement d'une prime exceptionnelle de pénibilité à l'ensemble des personnels ayant maintenu la continuité pédagogique dans des conditions dégradées. Wallis et Futuna, le Congrès, se félicite de l'intégration des personnels du premier degré dans le corps des professeurs des écoles, ordonnance 2025-521 suite à la mobilisation des personnels avec FO. Le Congrès revendique la prise en compte de toutes les années de service avant l'intégration dans le corps pour le calcul de la retraite. Le Congrès revendique le maintien de l'indexation en cas de congé administratif pour les fonctionnaires locaux. Le Congrès dénonce l'abandon des élèves en situation de handicap et la surprécarisation des contrats des guiches et exige la création d'un IME à Wallis et Futuna avec une augmentation du quota horaire à 24 heures des guiches pour une meilleure prise en charge des élèves. Indemnité de vie chère. Et l'ITR depuis la loi de finances 2025, les arrêts maladie ordinaires CMO sont rémunérés à 90% du traitement au lieu de 100%, baisse de 10%. Pire, l'administration applique cette retenue au complément de rémunération, considérant celle-ci comme une indemnité variable. En CLM-CLD, la perte est catastrophique, 100% du traitement indiciaire mais seulement 33% du régime indemnitaire la première année, puis 60% du traitement indiciaire pour la deuxième et troisième année. Le coût de la vie outre-mer ne diminue pas en cas de maladie. En conséquence, le Congrès exige le maintien du complément de rémunération, même en cas de maladie, à l'image du traitement réservé à l'indemnité de résidence et revendique un dispositif compensatoire à la disparition de litres sans cotisation supplémentaire, comme avant 2009. 18 Romains. International, le Congrès a entendu les délégations étrangères et constate que les problèmes posés dans tous les pays se ressemblent. Marche à la guerre, destruction des acquis sociaux dans une situation d'accélération de la marche à la guerre sur tous les continents, le Congrès, profondément attaché à la paix, fait le constat que ce sont toujours les travailleurs qui en paient le prix, misère, famine, terreur, mort et désolation. Mais la guerre est aussi utilisée, dans les pays qu'elle ravage comme dans ceux dont les gouvernements en sont complices, pour bafouer les droits et les libertés fondamentales et sacrifier les budgets sociaux, les services publics, la protection sociale collective avec la CGTFO, le Congrès réaffirme sa solidarité envers les travailleurs en Ukraine, comme en Russie, en Palestine comme en Israël, et partout dans le monde et continue d'appeler à un cessez-le-feu immédiat et à l'arrêt des livraisons d'armes. Le Congrès mandate les instances fédérales pour continuer à intervenir auprès des gouvernements des pays qui bafouent les libertés syndicales et fondamentales pour exiger d'eux le respect des conventions 87 et 98 de l'OIT. Le Congrès soutient l'intervention de l'International de l'éducation à la conférence de loi en défense des conventions 87 et 98 de l'OIT et des recommandations de 1967 et de 1993 du CIET, notamment en défense de l'emploi permanent du financement public de l'éducation et de la liberté académique. Le Congrès partage la nécessité, réaffirmée par le dernier Congrès mondial de l'IE, de lutter contre la privatisation de l'école, contre la militarisation de la jeunesse, pour la défense des droits démocratiques et syndicaux, pour le cessez-le-feu à Gaza, en Ukraine et partout ailleurs. Le Congrès mandate les instances fédérales pour poursuivre et renforcer les relations avec d'autres organisations syndicales au plan international, dans la continuité du dernier Congrès mondial de l'IE et du meeting international contre la guerre. 19 Romains. Défense du droit syndical et des libertés fondamentales, halte à la répression et à la violence d'État. Le Congrès condamne la violence d'État qui se déchaîne contre les salariés, les syndicalistes et la jeunesse. Le Congrès condamne la répression qui criminalise l'action revendicative et syndicale ainsi que l'instrumentalisation par le gouvernement des forces républicaines de maintien de l'ordre à des fins de coercition violente du mouvement social. Le Congrès rappelle le préambule de nos statuts confédéraux. Le syndicalisme ne saurait être indifférent à la forme de l'État. C'est pourquoi le Congrès ne peut tolérer la dérive autoritaire, grave, dangereuse, organisée par le plus haut sommet de l'État. Avec la CGTFO, le Congrès revendique l'abrogation de la loi portant respect des principes républicains, qui remet en cause l'indépendance syndicale en voulant s'intégrer dans le fonctionnement des organisations en tentant d'opérer un rapprochement juridique entre les associations et l'organisation qui dépendent de lois différentes 1884, 1901, 1905. Ingérence sous forme de charte de laïcité et de contrat d'engagement républicain remettant en cause les libertés individuelles dans les entreprises, associations et syndicats. Le Congrès revendique le respect de la liberté d'opinion garantie par le statut de fonctionnaire. Le Congrès exige, avec sa confédération, l'abrogation de toutes les mesures liberticides, loi pour une sécurité globale du 25 mai 2021, décret du 02 décembre 2020 modifiant les dispositions des codes de sécurité intérieure relatives au traitement des données à caractère personnel. Le Congrès rappelle sa totale opposition à l'ensemble de la loi de la transformation publique qui cherche à réduire la portée de l'action syndicale et à nous museler. Le Congrès exige le respect et l'amélioration de tous les droits syndicaux existants dans tous les secteurs pour toutes les catégories de personnel, privé et public, notamment le droit aux autorisations spéciales d'absence pour participer à des instances syndicales et le droit à participer à des réunions d'information syndicale dans le premier et second degré et sur le temps de travail des agents. Le Congrès revendique le retrait de la règle du 30e indivisible qui constitue une restriction inacceptable du droit de grève. Le Congrès condamne les entraves au droit syndical et les refus d'autorisation de participer aux instances stages ASA 13 sous prétexte de continuité du service, faute de moyens de suppléance, notamment les diverses restrictions au droit des enseignants à participer aux AI. À cet égard, il demande l'abrogation de l'article 5 de l'arrêté du 29 août 2014 qui restreint le droit des enseignants à participer aux réunions d'information syndicale, les obligeant à se déclarer 48 tâches à l'avance. À cet égard, le Congrès dénonce le service minimum d'accueil qui constitue une limitation du droit de grève et en revendique l'abrogation. Le Congrès dénonce dans l'OSRE l'usage abusif de la notion de risque de trouble à l'ordre public, comme ça a été le cas pour l'interdiction de conférences concernant la situation au Proche-Orient, à Lyon, à Lille ou à Bordeaux, ou pour la suspension pendant des mois de l'accès aux listes de diffusion syndicale à l'Université Savoie-Mont-Blanc. L'usage abusif du recours à l'article 40 du CPP, comme ça a été le cas contre divers universitaires, chercheurs ou étudiants s'étant exprimés à propos de la situation à Gaza. Le Congrès revendique l'annulation de toutes les sanctions et l'abandon de toutes les poursuites contre les universitaires, chercheurs ou étudiants qui se sont exprimés librement et en toute conformité avec la législation sur la situation à Gaza, Toulouse, Sorbonne Université, Lyon de Romain, Sciences Po Paris, Rennes, Lille, l'abrogation de la loi mensongèrement intitulée de lutte contre l'antisémitisme et de ses décrets d'application qui imposant la mise en place de référents égalité et diversité, des formations obligatoires à la lutte contre l'antisémitisme vectrice d'inculcation d'une idéologie d'État et auxquelles contribueraient des associations connues pour leur soutien à l'État israélien, si au détriment des enseignements disciplinaires, et instaure des procédures disciplinaires d'exception pour les étudiants poursuivis disciplinairement pour des soi-disant faits d'antisémitisme, avec des juridictions où la parité étudiant-renseignant n'est plus respectée, dont les membres sont désignés par le recteur, et présidée par un non-universitaire. Qu'au contraire, la protection fonctionnelle soit accordée à tous les collègues pris à partie dans les médias ou par des personnalités politiques. Défense des libertés des universitaires, chercheurs, chercheuses, étudiants et étudiantes et de tous les personnels. Le Congrès dénonce les interventions liberticides du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, tout récemment encore en censurant un colloque qui devait avoir lieu au Collège de France sur l'histoire de la Palestine, ou en tentant de diffuser un questionnaire sondage orienté en faveur de la politique de l'État israélien et attentant aux opinions politiques, religieuses des personnels et étudiants. Le Congrès exige le respect de droits et libertés sans cesse remis en cause par les ministres eux-mêmes. Retailleau, T. Ansel, P. Baptiste notamment à propos d'expressions relatives à la situation à Gaza, respect de l'indépendance des universitaires et des chercheurs, des franchises universitaires, des libertés académiques, des libertés d'opinion, d'expression, de manifestation des étudiants sur leur lieu même d'études. Le climat entretenu par le gouvernement, notamment, fait des collègues engagés dans la défense du peuple palestinien des cibles. La répression s'abat sur autant dans les manifestations que par des actions disciplinaires, des intimidations ou des pressions dans le cadre de leur mission. Le Congrès assure ses collègues injustement accusés des scènes de soutien et invite les syndicats de la fédération à organiser leur défense. Vin Romain. Retraité, le Congrès partage les orientations développées dans la résolution adoptée à l'Assemblée Générale de l'UCRFO qui s'est tenue les 14 et 15 octobre 2025 à Ronces-les-Bains. Avec l'UCRFO, le Congrès rappelle que les retraités ne sont ni des nantis, ni des vaches à Léossi. Il est hors de question d'accepter la désindexation des pensions voire leur gel. De la même façon, le Congrès s'oppose à la suppression de l'abattement fiscal de 10%. A l'inverse, avec l'acte de l'UCRFO, il revendique en particulier le rattrapage immédiat de la perte de plus de 10% depuis 2012 pour toutes les retraites, l'indexation des pensions sur l'évolution du salaire moyen, un revenu minimum de retraite pour tous, qui ne puisse être inférieur au SMIC pour une carrière complète. Par ailleurs, le Congrès appelle que les retraités sont des salariés qui ont cessé leur activité professionnelle et, qu'à ce titre, ils ont toute leur place au sein de l'organisation syndicale, dès lors que, conformément au statut de la Confédération, il dispose de la carte confédérale et de la vignée UCR. Le Congrès invite donc toutes les structures de la Fédération à prêter une attention particulière à cette question car retraiter un jour, syndiquer toujours, vint un Romain. Développement. Le Congrès affirme que le développement syndical est l'un des objectifs prioritaires et impératifs pour assurer l'avenir de notre Confédération FO et du syndicalisme revendicatif, libre et indépendant que nous représentons. Le Congrès appelle tous les salariés à rejoindre FO afin de renforcer l'outil nécessaire, intégrant l'organisation de la grève, permettant la satisfaction des revendications. C'est pourquoi il appelle l'ensemble de ses syndicats et militants à engager des actions de développement afin de promouvoir auprès de toutes les catégories le rôle essentiel du syndicat et la nécessité d'y adhérer. Le Congrès se félicite de la progression des syndicats de la Fédération en carte, en timbre et en nombre d'implantations. Cela doit nous permettre d'aborder les élections professionnelles de 2026 avec détermination pour confirmer et élargir la représentativité de la Fédération et de ses syndicats nationaux. Ce sont de puissants leviers pour peser dans le rapport de force. Le Congrès invite toutes ces structures à poursuivre le renforcement du syndicalisme libre et indépendant en continuant notre campagne de syndicalisation, en tenant régulièrement nos instances, en organisant les tournées d'écoles, établissements et services, en réunissant les personnels lors des réunions d'information syndicale, les assemblées générales pour établir les cahiers de revendications. Le Congrès invite les syndicats ou sections départementales de la FMEC-FPFO à coordonner leur expression, leur intervention et leur initiative dans le cadre des sections fédérales départementales et des Internec. Le Congrès invite les syndicats et sections à participer à la vie et aux instances des unions départementales et à jouer tout leur rôle dans l'action interprofessionnelle pour construire le rapport de force pour la satisfaction de nos revendications.